Nous sommes le jeudi 6 octobre, il est 7h.
7h-9h.
Europe Matin.
Dimitri Pavlenko.
À la une ce matin, sortez les gros pulls, baissez le chauffage, 110 km/h maximum peut-être sur les autoroutes. Présentation en grande pompe du plan de sobriété énergétique du gouvernement cet après-midi. L'État, les entreprises, les particuliers, tout le monde devra faire des efforts. Pas de contraintes à ce stade, mais des incitations. Présentation détaillée de Jacques Serret dans un instant. Nous irons également à Lorient, où vous l'entendrez, on coupe déjà les lumières la nuit en ville. On baisse aussi le chauffage dans les gymnases, pas plus de 14 degrés. Et puis c'est l'une des conséquences de la guerre en Ukraine. C'est une information Europe 1. Les jeunes Français plébiscitent l'armée de terre. Les candidats affluent dans les centres de recrutement. Le journal Christophe Lamar. Bonjour Christophe.
Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Éviter le coup de la panne, le gouvernement présentera cet après-midi son plan de sobriété énergétique pour passer l'hiver. Pas moins de 9 ministres réunis porte de Versailles, près de Paris, autour d'Elisabeth Borne. Europe 1 vous dévoile depuis ce matin les grandes lignes de ce nouveau cap. L'État et les collectivités locales vont devoir montrer l'exemple et fournir leur part d'effort. Bonjour Jacques Serret.
Bonjour.
Du service politique d'Europe 1, au-delà des mesures censées nous éviter des coupures d'électricité voire de gaz, la première ministre devrait acter un changement d'époque, l'énergie abondante et pas chère, eh bien c'est fini.
Oui, selon ses propres mots dans le dossier de présentation de ce plan, notre continent, notre pays sont à un point de bascule. Alors Elisabeth Borne veut donner le cap cet après-midi et appeler à la mobilisation de tous, État, entreprises, ménages. Chaque geste compte, s'apprête à marteler la locataire de Matignon. Exactement le même slogan que lors de la crise du coronavirus. Pas plus de 19 degrés, ce sera la nouvelle règle pour le réglage du chauffage dans les bâtiments publics, quand les fonctionnaires devront réduire leur vitesse sur autoroute de 130 à 110 km/h pour un gain de 20% de carburant sur les trajets non urgents. Les entreprises sont-elles priées d'éteindre leurs éclairages intérieurs dès l'instant que leurs bâtiments ne sont plus occupés ? Objectif, permettre à notre pays de réduire de 10% sa consommation d'énergie d'ici à 2024. Réduire notre consommation, c'est réduire notre dépendance à la Russie, juge Elisabeth Borne. Mais ce plan de sobriété a aussi des vertus d'un point de vue économique aux yeux de la Première ministre. Il s'agit aussi d'un plan pour le pouvoir d'achat, dans la mesure où il doit permettre, selon elle, de réduire les factures des Français.
Jacques Serret.
Voilà, Jacques le disait à l'instant, faire des économies, c'est aussi alléger les factures. Objectif numéro un de nombreuses communes. Exemple à Lorient, où l'on prend le taureau par les cornes.
Et on ne parle pas de plan de sobriété, mais de plan de résilience. Extinction des lumières de la ville la nuit et baisse drastique du chauffage dans les gymnases. Reportage Charles Guyard.
Il va falloir se bouger un peu plus à l'échauffement pour pas avoir froid.
D'ici la fin du mois, le grand plan de résilience lancé par la mairie de Lorient va entrer en vigueur.
Comme on va courir, on va se réchauffer.
Et parmi les principales mesures, le thermostat qui va passer de 19 à 14 degrés dans les gymnases de la ville, ce qui va obliger joueurs et entraîneurs à adapter leurs séances. Baptiste est coach de basket.
On va devoir peut-être prendre des temps d'échauffement beaucoup plus longs. Après, dans le principe, c'est une idée qui est plutôt pas si mal.
Une idée qui doit surtout permettre de soulager la facture globale d'énergie amenée à doubler cet hiver par rapport à l'an dernier, avec moins de chauffage dans les équipements municipaux et l'extinction de l'éclairage public au cœur de la nuit. Lorient espère ainsi économiser jusqu'à 1,5 million d'euros. Pour Bruno Paris, l'adjoint à l'environnement, c'est aussi bon pour les finances que pour la conscience.
On sait que la France était dépendante jusqu'à présent à 17% du gaz russe, eh bien, on fait le pari à la ville de Lorient qu'on est capable de diminuer nos consommations de gaz de 17% parce que c'est un effort de guerre. Ce qu'on dépense en énergie, c'est autant de fonds perdus pour des politiques publiques qui sont importantes.
Et les près de 60 000 Lorientais ont tout à y gagner après tout puisque ce sont eux qui paient la facture finale. Lorient, Charles Guyard, Europe 1.
Il est 7h04 pendant ce temps dans les stations-service. Eh bien, c'est de plus en plus dur de faire le plein.
Et conséquence de la grève des salariés de Total et du succès de la remise de 20 centimes à la pompe, 12% des stations sont à sec, situation variable d'une région à l'autre. C'est tendu dans le Nord et le Pas-de-Calais. Dans ces deux départements, les autorités interdisent l'utilisation des jerrycans. À Toulouse aussi, on atteint la côte d'alerte. Reportage Benjamin Péter.
On ne voulait pas Total parce que c'était trop cher. Maintenant, c'est Total le moins cher, donc tout le monde cherche des Total.
Mais ce ne sera pas ici que Jean-Bernard pourra faire le plein. Le panneau des prix est éteint, les pistolets à carburant sont tous recouverts d'un manchon marqué hors service. Lui qui habite à côté constate que chaque fois que cette station est approvisionnée, c'est la cohue.
Ça fait trois jours que chaque fois qu'il y a de l'essence, c'est plein, il y a la queue jusqu'à la rue. Il y en a une à côté à Balma à 5 minutes, c'est pareil, il n'y en avait plus hier. Vu les prix qui recommencent à flamber, ça vaut le coup.
Julien lui aussi a tenté sa chance ici, il est sur la réserve, il va falloir trouver vite une station ouverte, quitte à payer plus cher.
faire.
Et je sais pas où aller sinon.
On va chercher.
Mais j'en ai besoin, ouais, là. Sinon, je peux pas aller cet après-midi bosser.
Le plus compliqué, c'est pour les professionnels, comme Anne-Laure, qui parcourt énormément de kilomètres pour son activité. Elle ne peut faire le plein que dans les stations du groupe Total.
Là, j'en suis à ma troisième. J'essaye d'appeler désespérément les stations, ne répondent même pas. Du coup, je vais continuer parce que c'est mon boulot et j'ai une voiture de fonction. Je suis obligée d'aller dans les Total. La galère.
Et elle a finalement dû parcourir une dizaine de kilomètres supplémentaires pour trouver une station ouverte et approvisionnée à la sortie de l'agglomération. À Toulouse, Benjamin Péter, Europe 1.
Et le gouvernement refuse de parler de pénurie. Tout devrait rentrer dans l'ordre d'ici 15 jours.
Europe 1 7h05, c'est l'une des conséquences de la guerre en Ukraine. Et c'est une information, Europe 1, on se bouscule dans les centres de recrutement de l'armée de terre française.
La police et l'armée avaient déjà connu une vague d'engagement après les attentats de 2015. Des milliers de jeunes avaient voulu faire carrière dans la police ou devenir militaire. Eh bien, on a voulu savoir ce matin, s'il en était de même depuis l'invasion russe en Ukraine. Bonjour William Molinier.
Bonjour.
En temps normal, l'armée de terre reste le premier recruteur. Mais ce que vous nous révélez ce matin, William, c'est que les centres de recrutement font pratiquement le plein.
Oui, on peut même parler de net regain d'intérêt des jeunes Français, car selon nos informations, les centres de recrutement de l'armée de terre, les CIRFA, répartis un peu partout sur le territoire, ont vu leur fréquentation progresser de 40% lors du premier mois qui a suivi le déclenchement de la guerre en Ukraine en février dernier. Pour le lieutenant-colonel Hubert du pôle recrutement de l'armée de terre, c'est la preuve que l'engagement reste une valeur cardinale au sein de la jeunesse.
Je pense que les jeunes aujourd'hui ont besoin, ont envie de donner un sens à leur vie, à leur métier. Et l'engagement dans l'armée de terre leur permet ça. Je pense qu'on peut leur rendre hommage aux jeunes. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas peur de s'engager au service de leurs convictions, de ce qu'ils pensent être juste.
Après cette vague liée à la guerre en Ukraine, la courbe a retrouvé ses niveaux habituels avant de remonter le mois dernier avec 8125 prises de rendez-vous.
Il va falloir voir sur le long terme quels sont les effets exacts de cette situation.
Ces entretiens ne se transforment pas tous systématiquement en contrats signés, mais à l'heure où l'armée de terre doit remonter en puissance face à la menace du retour de la guerre de haute intensité, ils sont jugés nécessaires pour pouvoir recruter 16 000 soldats chaque année.
Merci William Molinier pour cette information Europe 1 donc sur l'afflux de candidats dans les centres de recrutement de l'armée de terre. L'enquête sur la mort d'une jeune femme tuée accidentellement par balle à Grenoble après un refus d'obtempérer de son compagnon. Il s'agit d'un Marocain de 30 ans déjà condamné pour avoir tiré sur les forces de l'ordre. Et selon les policiers, il est en situation irrégulière puisqu'il fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français.
Allez, le chien, plus que jamais, meilleur ami de l'homme. Il peut même l'aider à guérir, et figurez-vous.
Découverte révolutionnaire que l'on doit aux chercheurs de Tours. Ils lui ont trouvé un parasite particulier, le Neospora caninum. Il pourrait aider à développer le traitement pour les cancers jugés incurables. Geoffrey Branger, ça pourrait à terme tout changer dans la lutte contre la maladie.
Oui, l'idée, c'est d'injecter à plusieurs reprises ce parasite, ce virus inoffensif pour l'homme, directement dans une tumeur. Arthur Battistoni est doctorant à l'université de Tours et fait partie de l'équipe de chercheurs responsable de cette découverte.
La présence de ce virus dans la tumeur va permettre, dans un premier temps, de détruire les cellules tumorales et en même temps de réveiller le système immunitaire du patient qui est souvent endormi par la tumeur.
L'avantage de ce traitement, appelé par les scientifiques immunothérapie cancéreuse, c'est qu'il n'y aurait pas d'effet secondaire comme dans les traitements actuels, comme par exemple la chimiothérapie. Si aujourd'hui les tests en sont encore à leur début, les premiers résultats sont très encourageants.
Lorsque nous avons traité des souris avec ce parasite, on a pu voir en quelques semaines une inhibition du développement de la tumeur, ce qui est un résultat très prometteur pour la suite. Et nous l'espérons permettre un jour de pouvoir traiter un premier patient humain avec cette thérapie.
Oui, parce que l'objectif pour cette équipe de chercheurs, c'est de créer un traitement pour guérir tous les cancers, y compris ceux réputés incurables, comme le cancer du pancréas ou encore certaines tumeurs cérébrales.
Geoffrey Branger, allé à la troisième journée de Ligue des champions de football, le PSG accroché un partout sur la pelouse de Benfica. Quatre clubs français engagés aujourd'hui en Ligue Europa et Ligue Europa Conférence, Rennes, Monaco, Nantes et Nice.
Merci beaucoup Christophe Lamar. Dans un instant, l'agence du médicament protège-t-elle plus les Français ou les laboratoires? On va voir ça avec Anne Jouan, journaliste qui signe avec le professeur Christian Richer. La santé en bande organisée, c'est chez Robert Laffont. A tout de suite.
Europe Matin, Dimitri Pavlenko.
Distilbène, Vioxx, Mediator, Levothyrox, vous connaissez le nom de ces médicaments qui, en l'occurrence, ont tué. Le drame dans le drame, c'est que trop souvent, le gendarme sanitaire n'a pas joué son rôle. Un livre dévoile les coulisses des grands scandales pharmaceutiques. Bonjour Anne Jouan.
Bonjour Dimitri.
Bienvenue sur Europe 1, vous êtes journaliste indépendante. Vous publiez ces jours-ci avec le professeur Christian Richer. Vous allez nous parler un petit peu de lui parce que c'est un homme très intéressant. La santé en bande organisée, ça paraît ces jours-ci chez Robert Laffont. Ce livre raconte les des dysfonctionnements, les failles de l'ANSM, l'Agence nationale de sécurité du médicament. On a entendu parler d'elle au moment de la validation des vaccins contre le Covid, mais elle ne fait pas que ça. Vous dites que cette agence, Anne Jouan, est devenue incapable de remplir son rôle de gendarme sanitaire en France.
Oui, juste une petite parenthèse, le lévothyrox n'a pas tué stricto sensu, c'est des problèmes de dosage et d'excipient, donc c'est important de le rappeler. Oui, l'Agence française du médicament a été créée en 1993 dans les suites de l'affaire du sang contaminé. Officiellement, elle est créée pour qu'il n'y ait plus jamais de politique impliquée, plus de l'histoire avec Georgina Dufoy, Laurent Fabius et Edmond Hervé. Officieusement, officiellement, c'est pour qu'il n'y ait plus jamais de scandale sanitaire. Aujourd'hui, force est de constater que les dysfonctionnements sont majeurs, que finalement, ces dysfonctionnements concernent la santé de tout le monde, puisque tout le monde prend des médicaments, que ce soit pour des maladies chroniques ou de manière plus occasionnelle. À la fin du livre, plusieurs sources nous racontent qu'aujourd'hui, l'agence a fait pire qu'avant. Et ils donnent des exemples, que ce soit en matière de recrutement. On prend des bacs plus 3 au lieu de prendre des bacs plus 7. Ils parlent de traduction de monographies de médicaments. L'agence est incapable de les faire. Pour traduire de l'anglais, elle attend les traductions de l'agence belge. Ils parlent finalement de tout ce qui dysfonctionne. Mmh. Et puis, le dernier exemple en date, c'est quand même le problème avec le professeur Didier Raoult. Les scientifiques savent dès l'hiver 2020 qu'il y a des problèmes majeurs à l'IHU, notamment en matière d'essais cliniques. Que fait l'agence ? L'agence a un rôle de gendarme. Elle doit aller, quand elle a des soupçons, faire une inspection, regarder ce qui se passe. Elle a en quelque sorte un devoir de perquisition. En l'hiver 2020, elle est tétanisée. Un directeur de l'agence le raconte à la fin du livre. Et elle ne veut pas, elle ne peut pas, elle n'ose pas y aller. Parce que, nous dit-il, il aurait fallu l'aval de la tutelle. La tutelle, c'est le ministère de la Santé. Et nous dit-il, il aurait même fallu plus haut l'aval de l'Élysée. Donc l'agence chancelle sur ses pieds. Et finalement, la conséquence, c'est que la santé publique et la santé des Français n'a pas été assurée avec cet exemple-là. Mais il y en a d'autres.
Alors voilà, en fait, le cœur de votre livre, c'est ce qu'on appelle la pharmacovigilance. Ça n'est pas très connu, mais l'Agence nationale de sécurité du médicament en est le cœur. C'est le cœur du réacteur. La validation des médicaments, est-ce qu'ils sont dangereux ou non pour la santé? Est-ce qu'on peut les prescrire aux Français? Ce qu'il y a de terrible dans votre livre, c'est que le professeur Christian Richer et d'autres, parce qu'une quinzaine vont vous parler au fil des ans, vous apportent des documents, des cartons entiers de médicaments qui tentent à prouver que l'ANSM, à bien des égards, laisse prendre des risques aux Français plutôt que de retirer certains médicaments. Comment c'est possible?
Oui, l'ANSM, mais aussi le ministère de tutelle. Il ne faut pas oublier, l'agence dépend du ministère de la Santé. Mmh. Quand hier, je préparais notre entretien de ce matin, je discutais avec toutes les sources de la fin du livre. Et toutes m'ont dit, les dysfonctionnements sont tels aujourd'hui qu'il y a une mise en danger de la vie d'autrui. Et un des directeurs de la fin du livre, celui qui parle notamment de Didier Raoult, me dit: vous savez, à propos des respirateurs Philips, les respirateurs que certaines personnes qui souffrent d'apnée du sommeil utilisent la nuit. Il reprend un communiqué de l'agence et il me dit « Le risque de cancer n'est pas avéré ? Non mais. C'est comme dire que Mediator est un potentiel cardiotoxique, mais qu'au vu des données disponibles, le risque d'atteinte cardiaque n'est pas avéré. Les particules cancérogènes inhalées, et on attend que le risque soit avéré. On ne dit même pas aux patients quelles sont ces particules exactement, quelle quantité ils ont pu inhaler et quels sont les seuils. L'ANSM fait une information vide d'information. L'ANSM ne peut pas faire des mesures pour identifier ces particules au lieu de faire seulement confiance à Philips, qui dit avoir des connaissances depuis des années. Or, quantifier les particules, estimer les quantités inhalées, n'importe quel laboratoire du CNRS ou une école d'ingénieurs est parfaitement capable de le faire, mais on préfère attendre que l'autorité de contrôle américaine, la FDA, le fasse à notre place.
Mais pourquoi,
donc ça, c'est un exemple.
Parce que là,
il y en
fait,
a plein d'autres.
Ben, on comprend une chose, c'est qu'il y a d'une part une certaine, probablement une perte de compétence de l'ANSM, mais il y a plus que ça. Pourquoi telle agence prendrait-elle des risques, prendrait-elle tous ces risques et les ferait prendre en français en l'occurrence?
Mais vous l'avez dit, pour un problème d'incompétence, quand vous n'êtes pas capable de traduire des monographies de médicaments, quand vous n'êtes pas capable de traduire de l'anglais, que vous attendez la traduction des camarades belges pour le faire, c'est un problème.
Oui.
Quand des gens en réunion sont incapables de prononcer des noms de médicaments, c'est parce qu'ils ne les connaissent pas, ces molécules. Et ça veut dire qu'on laisse la santé des gens entre les mains d'une telle incompétence. Mais que fait le ministère de la Santé ?
Eh ben justement, vous mettez au jour aussi les liens interpersonnels qui unissent ce petit monde de la pharmacovigilance, ou entre le ministère, l'agence du médicament, les laboratoires, certains journalistes aussi.
L'inspection générale des affaires sociales, certains journalistes, bien sûr.
Voilà, en fait, ce petit monde se connaît et passe d'une institution à l'autre de manière extrêmement fluide.
Oui, et on explique comment l'inspection générale des affaires sociales, l'IGAS, inspecte des gens de l'agence, par exemple, je pense à l'essai clinique de Rennes, qui s'était soldé par la mort d'un volontaire sain en 2016, qui s'appelait Guillaume Molinet. Et on se rend compte que finalement, l'inspection est menée par un inspecteur IGAS qui s'appelle Gilles Duhamel. Gilles Duhamel, il a travaillé au cabinet de Dominique Gillot et de Bernard Kouchner. Et il a croisé qui au cabinet de Bernard Kouchner ? Dominique Martin, le directeur de l'agence qui l'inspecte plusieurs années plus tard. Mmh. Est-ce que c'est sain ? Est-ce que c'est sain une démocratie sanitaire ?
Alors, ce livre aussi, on ne va pas avoir le temps d'en parler, Anne, mais je le signale, c'est aussi l'histoire de votre relation pendant plus de 10 ans avec le professeur Christian Richer, qui va prendre des risques pour vous transmettre toutes ces informations. Y a toute une histoire qui se noue entre vous. Ça se lit pratiquement comme un polar aussi, puisque le manuscrit de ce livre, vous avez dû le garder caché jusqu'au dernier moment. Avez-vous des réactions aujourd'hui de l'Agence nationale de sécurité du médicament, qui doit être fort mécontente quand même de votre livre, Anne Jouan ?
Alors, on a plusieurs types de réactions. Le jour de la sortie du livre, l'agence a envoyé un email à ses salariés internes pour leur dire que ça devait leur faire un choc et que s'ils avaient besoin, on pouvait monter des groupes de parole pour en discuter, ce qui est quand même un peu lunaire. Ça vous fait sourire. Le professeur Richer reçoit des messages de salariés de l'agence et d'experts qu'il félicite et qui lui demandent de leur dédicacer le livre sous le manteau. Sinon, je sais qu'ils sont extrêmement furieux, mais on n'est pas là pour s'aimer, on n'est pas là pour être furieux. Oui. La question, c'est on fait quoi aujourd'hui pour la sécurité des Français en matière de médicaments ? Et encore une fois, que fait le ministre de la Santé, François Braun ?
Voilà, qui savait, qui n'a rien fait, tout est dans ce livre, La santé en bande organisée, signé Anne Jouan et le professeur Christian Richer. Ça paraît ces jours-ci chez Robert Laffont. Merci Anne Jouan.
Merci à vous.
D'être venu ce matin nous en parler sur Europe 1. Bonne journée à vous. 7h21.
Europe Matin. HelloWork, la première plateforme française de recrutement, vous présente l'édito éco.
Allez, place à l'économie. Bonjour Nicolas Bouzou.
Bonjour Dimitri.
Allez, on va découvrir tout à l'heure le plan de sobriété du gouvernement pour cet hiver. Est-ce qu'on aura, ça c'est une autre question, est-ce que nous aurons suffisamment d'électricité ?
Ah ben, je ne peux pas vous le garantir. Hein. La disponibilité du parc reste très basse et EDF est en retard sur ses propres prévisions de disponibilité de ses réacteurs. Hein. Alors, des réacteurs qui devaient retourner à la normale, mais qui ne retournent pas à la normale. On note de nouveaux arrêts, on note des grèves. Aujourd'hui, il y a même une mobilisation à la centrale de Chinon. Hein. Vous m'accorderez que le moment n'est peut-être pas parfaitement choisi. Bon, au-delà de ces éléments conjoncturels, il y a des éléments structurels. Songez, Dimitri, qu'entre 2005 et aujourd'hui, la disponibilité du parc nucléaire est passée de 83 à 73%. Ça veut dire que la production est passée de 430 TWh en 2005 à 360 l'année dernière. En décembre, on sera au maximum à 300. C'est le niveau le plus bas depuis 30 ans. Et ça, pour le coup, c'est pas de la faute de la Russie.
Ouais, ça s'appelle de la décroissance, hein, ça, tout simplement. Est-ce qu'il faut incriminer l'État ou EDF, Nicolas ?
Ah bah les deux. Les deux, ben, l'État est responsable parce qu'il a orchestré la diminution de notre capacité de production nucléaire, mais EDF aussi a sa part de responsabilité. Alors, bien sûr, il y a eu le Covid qui a décalé les plannings de maintenance, bien sûr, il y a eu les phénomènes de corrosion qui ont été découverts sur certains réacteurs et qu'on ne pouvait pas prévoir. Mais enfin, bon, la baisse de notre capacité de production électrique ne date pas d'hier. Les retards de l'EPR nouvelle génération de Flamanville ne datent pas d'hier. EDF est une entreprise élitiste qui se vante d'incarner le meilleur de l'élite française en matière d'ingénierie. Eh bien, peut-être qu'EDF aurait pu être géré avec davantage de modestie.
Alors, l'État a déposé mardi auprès de l'autorité des marchés financiers son projet d'OPA, d'offre publique d'achat, pour reprendre tout le capital d'EDF et le sortir de la cote. Est-ce que ça va permettre d'améliorer les choses ?
Alors déjà, vu la situation financière absolument catastrophique d'EDF, la nationalisation était un passage obligé. On n'allait pas laisser l'entreprise faire faillite. Ensuite, écoutez, il ne me semble pas que l'État soit toujours un actionnaire grandiose. Hein. En réalité, il est même souvent un actionnaire schizophrène. Dans le cas présent, d'un côté, il reproche à EDF de ne pas produire assez et de faire des pertes financières abyssales, mais de l'autre, il n'a rien fait pour encourager le nucléaire. Je rappelle d'ailleurs que l'État a depuis plusieurs années plus de 80% du capital d'EDF. Qu'ont fait ses administrateurs ? Ils ont dormi ? Ce qui est nécessaire maintenant, c'est qu'une direction claire soit donnée par l'État. On investit dans le nucléaire, on s'en donne les moyens et on attend une gestion avisée d'EDF au service des Français.
Merci beaucoup Nicolas Bouzou. 7h23 sur Europe 1.
C'était l'édito Éco avec Hello Work, la première plateforme française de recrutement. Chaque jour, plus de 4000 recrutements partout en France grâce à Hello Work. Plus d'infos sur le site ou l'application. Europe Matin.
L'essentiel de l'actualité, Alban Leprince.
Baisser le chauffage à 19 degrés, c'est à partir d'aujourd'hui. Le gouvernement présente son plan de sobriété énergétique. Monde du sport, du travail, administration, commerce particulier, tout le monde est concerné. 211 contrôles hier lors du démantèlement du camp du crack de la porte de la Villette à Paris. 52 personnes étaient en situation irrégulière. 39 ont été interpellées, dont 17 qui étaient recherchées. On en sait plus sur le chauffard de la course poursuite mortelle à Grenoble. Europe 1 a enquêté. Il avait déjà ouvert le feu sur la police en 2012, faisait l'objet d'un mandat d'arrêt et d'une obligation de quitter le territoire. Et puis les députés ont adopté une mesure de la réforme de l'assurance chômage hier prévoyant que tout salarié qui abandonne son poste soit présumé démissionnaire.
Cet adversaire,
allô, Jacques-Marie.
C'est le monde de la finance.
Colonna n'était pas armé, il n'a pas opposé de résistance.
C'est bien elle qui a écrit « Omar m'a tué ».
Voici les Rolling Stones.
Aujourd'hui sera remis le prix Nobel de littérature. Alors les paris vont bon train. Est-ce que ce sera Salman Rushdie, Michel Houellebecq ou encore le japonais Murakami ? Bonjour Lord d'Autriche.
Bonjour Dimitri, bonjour à tous.
Vous revenez ce matin sur celui que l'Académie de Stockholm récompensa en 1970, l'écrivain russe Alexandre Solzhenitsyn.
Oui, livre après livre, il déploie une écriture novatrice. Et critique de façon de plus en plus radicale le régime soviétique. Dans l'archipel du Goulag, il dévoile les secrets des camps soviétiques où des millions de Russes sont morts sous Staline et ses œuvres à l'époque sont interdites en URSS.
Il vit en Russie et il vit de façon extrêmement solitaire. Et il a connu exactement toute l'oppression du régime stalinien. Il a été arrêté en 1945 et condamné à la détention pour avoir dit du mal de Staline.
Solzhenitsyn ne veut pas se rendre à Stockholm pour recevoir son Nobel de peur de ne pas être autorisé à retourner en Union soviétique où il est assigné à résidence et où ses livres circulent clandestinement. C'est ce que raconte à l'époque sur Europe 1 l'un de ses traducteurs, Georges Belmont.
Mettons-nous à la place de cet homme. J'imagine que tout de même d'apprendre que son nom est acclamé ailleurs, ça peut être tout de même une forme de réconfort, mais je pense un réconfort avec pas mal d'amertume en même temps.
Et dans son discours pour le Nobel, Solzhenitsyn écrit « Quand on a épousé le monde, on ne peut plus lui échapper ».
Alors un journaliste d'Europe 1 réussit à rencontrer l'écrivain russe 3 ans plus tard, en 73, en URSS.
Oui, le rendez-vous a été pris sans précaution. Solzhenitsyn reçoit dans l'appartement de sa femme, dans le centre de Moscou. Il ouvre lui-même la porte. Il est en chemise, avec une grande barbe, très souriant. Le journaliste d'Europe 1, Alain Jacob, raconte la scène.
C'est un homme qui était resté très silencieux pendant des années, voyant très peu de monde et qui maintenant veut parler. Pourquoi ? Pour riposter à des mesures, à des arrestations contre des dissidents qui ont eu lieu ces derniers mois.
Solzhenitsyn est arrêté quelques mois plus tard, déchu de sa nationalité soviétique, exclu du RSS en 1974. Il se retrouve en Suisse. Seule sa stature internationale lui permet finalement d'échapper à la prison. Il avait voulu être écrivain à l'âge de 10 ans lorsqu'il a dévoré les 1500 pages de Guerre et paix de Tolstoï. Solzhenitsyn meurt en 2008 à l'âge de 89 ans.
Merci beaucoup, Lord d'Autriche. À suivre sur Europe 1, l'édito international de Vincent Hervouette. Mais tiens, nous resterons dans la sphère russe avec, on parlera de Ramzan Kadyrov, le président tchétchène élevé hier au grade de général major de la garde nationale il y a 2 ans. Le voilà colonel général de l'armée russe. A tout de suite.
Europe Matin,
7h, 9h,
Dimitri Pavlenko.
À la une ce matin, scénario catastrophe pour les salles obscures. Jamais la fréquentation des cinémas n'a été si faible. Pourquoi n'y allons-nous plus ? On vous a posé la question. Réponse dans un instant. Votre maison, votre entreprise, votre mairie, tous concernés par la sobriété énergétique. C'est l'idée du plan que le gouvernement présente cet après-midi. Europe 1 vous en révèle les points clés dans un instant. Et puis, réviser ses leçons en écoutant du rap. Eh bien oui, c'est permis. Il paraît que ça marche très bien aussi pour retenir les leçons. Découverte à la fin du journal.
Europe. Europe 1.
Journal présenté par Roman Hocquet. Bonjour Roman.
Bonjour à tous. Et vous, c'est quand la dernière fois que vous êtes allé au cinéma? Vous savez, l'atmosphère d'une salle obscure, l'odeur du pop-corn tiède et le plaisir d'un film sur grand écran, jusqu'au fameux « chut, ça commence ».
Voilà, la recette, visiblement, ne fonctionne plus. 7 millions de spectateurs le mois dernier, c'est la plus faible fréquentation depuis 1980. Mais que se passe-t-il?
Alors, le Covid, le prix du billet d'entrée, puis le streaming, ces films à peine sortis en salle et déjà disponibles à domicile. Illustration près du Majestic Passy à Paris, où les clients ne se bousculent pas au micro Europe 1 de Clotilde Dumay.
Devant ce cinéma du 16e arrondissement, François lit un peu hésitant le résumé des films à l'affiche. Il ne vient pas souvent.
Je suis un peu flemmard, je regarde pas mal de films en VOD à la maison.
Les plateformes de streaming, c'est aussi le plan B d'Alexandre, surtout vu le prix d'une place de cinéma.
À côté de chez moi, c'est 15 euros la place, donc si je suis pas sûr que ça va être vraiment un film qui vaut le coup d'être vu au cinéma, je vais avoir tendance à attendre de le voir en VOD ou autre.
Et des films qui valent le coup, il y en a assez peu d'après Michel.
J'adore le cinéma, mais en réalité, il y a peu de films qui m'intéressent, qui me donnent envie d'aller les voir.
Autant de raisons qui font que la fréquentation des salles de cinéma reste inférieure à la période pré-Covid, moins 15 à moins 20% pour les 5 établissements parisiens détenus par Sophie Dulac.
Il ne faut pas oublier que quand on a réouvert aussi, les distributeurs n'ont pas vraiment osé mettre de films porteurs. Donc à part quelques cinéphiles encore seniors, je dirais, ou en tout cas un public de très gros blockbusters, les gens n'ont plus envie d'y aller. Voilà, il y a une vraie cassure entre le cinéma et son public.
Et Sophie Dulac redoute l'arrivée de l'hiver et le plan de sobriété énergétique qui pourrait dissuader certains spectateurs de venir dans des salles trop peu chauffées.
Clotilde Dumay.
À propos de température, 19 degrés max, hein, c'est la consigne du gouvernement qui présente son plan de sobriété, 19 degrés pour le chauffage. Europe 1 vous révèle les grandes lignes de ce plan d'économie d'énergie.
Oui, et tout le monde est concerné, les entreprises d'abord incitées au télétravail pour limiter les déplacements des salariés. Et puis vous, moi, il faudrait éteindre nos appareils en veille, réduire aussi la température de notre chauffe-eau. Margot Faudéré, le plan prévoit aussi des coups de pouce financiers.
Oui, la première mesure du gouvernement pour les Français, c'est sur le chauffage. Tous ceux qui passent d'une chaudière au gaz à une pompe à chaleur en logement individuel pourront bénéficier d'une aide allant jusqu'à 9 000 euros. Le montant pourra même atteindre 15 000 euros pour les chaudières à granulés de bois. Deuxième mesure, sur le logement cette fois-ci. L'exécutif rappelle le maintien de MaPrimeRénov et annonce un nouveau dispositif qui permettra de raccorder un logement collectif à un réseau de chaleur pour environ 250 euros par appartement. Enfin, sur le volet transport, le gouvernement prévoit un coup de pouce pour tous les nouveaux inscrits sur une plateforme de covoiturage dès le 1er janvier prochain. Par ailleurs, lorsqu'un employeur prendra en charge le forfait de transport en commun ou l'abonnement de vélo de ses salariés au-delà de 50% et jusqu'à 75% maximum, cette prise en charge sera exonérée d'impôts sur le revenu et de cotisations jusqu'à fin 2023.
Margot Faudéré.
Les mesures clés du gouvernement, c'est à retrouver aussi sur europe1.fr, sachez-le dans votre appli. Un plan de sobriété où l'État joue l'exemplarité.
Oui, fini l'eau chaude dans les bâtiments publics. En cas de tension, le chauffage devra même descendre à 18 degrés. Alors, pour éviter de grelotter dans son bureau, le département de la Mayenne a une idée plutôt originale. Instaurer une journée du pullover. Oui, oui, ce sera chaque vendredi. Le président du département, Olivier Richefou, nous explique le concept.
Il y a 53 mesures, hein, comme le numéro de notre département. Celle qui concerne la baisse des températures, c'est d'abord d'appliquer la règle de 19 degrés dans tous les bâtiments. Et puis, cette idée de considérer que le week-end, comme nous arrêtons le chauffage, bien sûr, le week-end, eh bien, dès le vendredi, nous anticiperons cet arrêt du chauffage en baissant déjà la température à 17 ou 18 degrés selon les conditions atmosphériques. Et puis, symboliquement, on a voulu appeler cette journée la journée du pullover parce qu'on mettra sans doute un pullover un peu plus chaud, à l'image du Friday Wear qui existait à une époque où on pouvait arriver en tenue décontractée le vendredi au travail. Eh bien là, on arrivera au travail le vendredi avec un pullover pour supporter cette fraîcheur un peu plus importante.
Voilà l'idée d'Olivier Richefou, président du département de la Mayenne. D'ailleurs, la journée du pullover, on pourrait peut-être s'y mettre.
Oui, mais en pullover moche.
Voilà, exactement. Voilà. J'allais dire, Dimitri, je sais que vous avez des très beaux chandails dans votre garde-robe. N'hésitez pas à les sortir dès demain.
Non, j'ai prévu d'en acheter un paquet pour cet hiver. Tous plus moches les uns que les autres.
Parfait.
N'hésitez surtout pas à faire concurrence, Roman. 7h35, la photo sera sûrement envoyée à Vladimir Poutine. Les dirigeants de 44 pays sont à Prague aujourd'hui. Première réunion de la communauté communauté politique européenne en soutien à l'Ukraine.
Oui, une initiative de la France qui accueille plus de 100 000 réfugiés ukrainiens, des femmes et des enfants accueillis depuis des mois dans des familles qui vont recevoir justement une aide de l'État, 150 euros par mois, annonce d'Elisabeth Borne hier. 14 000 foyers seraient concernés, ceux qui hébergent des Ukrainiens depuis au moins 3 mois. C'est le cas de Camille qui travaille dans une blanchisserie. Elle a ouvert sa porte à une mère et ses deux filles.
Ça me fait un peu bien rire, quoi, parce que 6 mois après, je suis sûre que les démarches vont être compliquées, qu'il manquera à chaque fois un papier ou un truc comme ça. J'y crois pas trop, en fait. Bon, après, c'est sûr qu'on va pas cracher dessus, hein. Ça aidera aussi, bien sûr. Le dimanche, en général, j'emmène la plus petite des deux gamines que j'ai à la maison, j'emmène au McDo. Et ben voilà, ça lui payera un McDo et ça va faire un petit plaisir que je vais leur donner à eux. Surtout que là, une femme et deux enfants, tout ce qui est électricité, gaz, eau, tout ça, ça, bien sûr, ça double, hein, ce qu'ils auraient dû faire. C'est pas de fixer un montant comme ça. C'est de regarder au nombre de personnes qui est accueilli. Parce que vous hébergez une personne. Ok, bien sûr, 150 euros, ça va faire du bien. Mais moi, par exemple, j'en ai 3. C'est pas la même chose. C'est pas le même montant qu'on dépense en électricité, en eau, en gaz, voilà.
Le témoignage de Camille qui accueille une famille ukrainienne, elle répondait à Alexandra Gégy pour Europe 1. 7h37, Soprano, Black M, Joestar, des rappeurs que vous entendez peut-être à fond dans la chambre de vos enfants, mais attendez, ne rouspétez pas tout de suite, c'est pour la bonne cause.
Oui, peut-être qu'ils sont en train de réviser, oui, avec des chanteurs de rap, histoire, physique, chimie ou encore français.
Ouais, c'est l'idée d'une plateforme en ligne qui cartonne d'ailleurs. Objectif, lutter contre le décrochage scolaire. Et les élèves en redemandent. On monte le son avec Louis Salé.
Les journées du roi soleil sont toutes complètes organisées. Suis un programme préparé par ses officiels.
Cobalader rap sur la journée de Louis XIV, un morceau sorti fin septembre qui s'écoute sur StudyTracks, une application dédiée aux leçons chantées. Joestar, Soprano, y donne des cours, tous les textes sont passés au crible des programmes. Laetitia Motron l'utilise, hein, cette appli, pour faire étudier la combustion en physique-chimie. Elle est prof dans un collège de l'Essonne.
J'avais une classe de 6e, ils avaient du mal à accrocher, ils étaient plutôt décrocheurs et ils ont adoré le concept. Ils voulaient tous faire une évaluation sur ce chapitre absolument parce qu'ils avaient tout compris.
Félix Sureau, lui, est prof de philo mais aussi rappeur et avec Antoine Pinchot, il forme le duo Félur et Andro. 150 000 abonnés sur TikTok.
Lequel, enfin, justifie les moyens Machiavel et les utilitaristes. Qu'as-tu capté de cet adage? En fait, c'est la fin, la finalité.
J'avais peur que derrière ces concepts de vulgarisation, certains professeurs invalident cette démarche. Mais j'ai eu énormément de retours positifs de personnes que j'estime. Donc, vis-à-vis des professeurs, c'est une grande fierté. Le rap permet de montrer que ce qu'on voit à l'école n'est pas totalement déconnecté de la réalité.
Tout de rap, aussi des poésies du programme. Victor Hugo, par exemple, cet été a fait 3 millions de vues.
Demain, dès l'aube, ah, l'heure où blanchit la campagne, je partirai. Vois-tu, je sais que
voilà,
tu m'attends, j'irai par la forêt.
Pourquoi pas du roi soleil en rap, fallait y penser, visiblement, ça marche.
Bah écoutez, pourquoi pas, du moment que ça rentre, voilà, c'est tout,
c'est
ce qu'on va se dire. Merci beaucoup, Romain Noquet, c'était votre journal. On vous retrouvera tout à l'heure à 9h, dans un instant, Ramzan Kadyrov, colonel général de l'armée russe. C'est classe, non, comme grade, c'est bizarre, je connaissais même pas. Vincent Hervouet nous raconte ça dans un instant.
Europe Matin, Dimitri Pavlenko.
Dans un instant, nos perles de culture du jour, le livre du jour notamment de Nicolas Caro. Nicolas, c'est le nouvel nouveau livre d'Alain Mabankou. Oh, je vais y arriver.
Alain Mabankou, on adore en plus, oh, oui. Dimitri.
Magnifique,
c'est génial.
Ça se passe à Pointe-Noire.
Ouais, une histoire de fantôme.
Voilà, fabuleuse. Dans un instant, et avec, on ira au théâtre aussi avec Marie Jiquel. Mais d'abord, Vincent Hervouet, bonjour.
Bonjour Dimitri.
Alors avec vous l'édito international, Vladimir Poutine vient d'élever le président de la Tchétchénie, Ramzan Kadyrov, qui a envoyé des troupes en Ukraine et même ses enfants. Il a été élevé, cet homme, au 3e grade, le plus élevé de l'armée russe.
Oui, en France, chaque médaille a son revers. En Russie, c'est le contraire. Chaque revers a sa médaille. Et la succession de revers que subit l'armée sur les deux fronts ukrainiens, à l'est du côté de Lugansk et au sud vers Kherson, méritait une grande médaille. Et donc, Ramzan Kadyrov a été fait colonel général. Alors, le grade paraît bizarre. C'est un héritage soviétique. D'ailleurs, les généraux russes restent un peu bizarres. Leurs vareuses sont couvertes de barrettes. Ils sont plus décorés que les sapins du goût de la Place Rouge à la période des fêtes, du temps où les grandes marques de luxe françaises avaient encore une boutique dans les galeries marchandes, c'est-à-dire avant-guerre, au début de l'année, c'est-à-dire il y a un siècle.
Alors Kadyrov avait été fait général-major de la garde nationale il y a seulement 2 ans.
Oui, parce que les Américains venaient de le déclarer persona non grata à cause de sa réputation épouvantable de tortionnaire, de chef mafieux. Vladimir Poutine l'avait aussitôt récompensé. Ses titres ronflants ne lui donnent aucune responsabilité opérationnelle dans l'armée russe. Ils sont comme des médailles que l'on épingle devant tout le régiment dans une sorte de pédagogie de l'honneur et du courage. En réalité, le tyran islamiste du Caucase ne sert pas à grand-chose en Ukraine. Ces hommes sont des miliciens, bons pour tenir en laisse les Tchétchènes, pas pour tenir un front.
Mais alors pourquoi le décorer ?
Ah ben voilà, parce qu'il se présente toujours comme le fantassin de Poutine. S'assurer sa fidélité ne coûte pas cher, parce qu'il dénonce les généraux qui ont conduit l'armée au désastre, ce n'est donc pas la faute de son maître, parce qu'il envoie sur le front trois de ses fils de 16, 15 et 14 ans, alors que des centaines de milliers de réservistes ont filé à l'étranger. Et parce que ce patriote conseille au Kremlin de balancer des bombes atomiques sur les Ukrainiens. Autrement dit, Kadyrov est décoré car il est l'exemple à suivre pour les Russes et un avertissement aux Occidentaux, il y a bien pire en Russie que Poutine.
Alors, il n'est pas le seul à critiquer les erreurs de l'état-major, hein.
Hier, le président de la commission de la défense de la Douma a exigé que l'armée arrête de mentir. C'est un ancien général, il agit sur ordre. La semaine dernière, le patron des mercenaires de Wagner s'est mis en scène. Evgeny Prigogine a lui aussi critiqué l'incurie de l'état-major et il n'est pas sorti de l'ombre sans avoir demandé la permission. Tout ça annonce une purge et prouve que la Russie se prépare, comme à chaque fois qu'elle essuie une défaite, à prolonger la guerre aussi longtemps qu'il le faudra. Kadyrov aura l'occasion de gravir encore deux marches pour devenir maréchal de la Fédération, comme Staline.
Merci beaucoup, colonel général Hervouette, pour votre billet du jour. Merci à vous.
Capitaine.
Capitaine Hervouette, c'est bien aussi.
Europe Matin.
Capitaine Caro, également Nicolas, ce matin, vous nous parlez du nouveau roman d'Alain Mabankou.
Mabankou, le retour, c'est toujours un bonheur. Alain Mabankou, je rappelle ses mémoires de Porc Épic, Black Bazar, un bonheur parce qu'on retrouve toujours sa voix dans ses romans, un mélange de drôlerie, de poésie, de légèreté, de profondeur. Alors, bon, légèreté et drôlerie avec le titre et le pitch du nouveau roman, on pourrait se demander. Ouais. Ça s'appelle Le commerce des allongés au seuil. Regardez la couverture, on voit un homme dans un costume coloré, il fait nuit, mais surtout, il est manifestement dans un cimetière et une tombe est ouverte juste à côté de lui et il lévite.
Ah oui, on croirait un fantôme.
Eh bien, c'est exactement ça. Il s'appelle Liwa Ekimakingai. On est à Pointe-Noire au Congo, comme souvent oui. Avec Mabankou.
C'est là qu'il est né, Mabankou.
Exactement, ouais. Liwa est mort. Il est au cimetière du Frère Lachaise. Tiens. Mais il se réveille, à moins qu'il soit en train de rêver. Toujours est-il qu'il vole et qu'il est habillé avec un pantalon pâte d'ève violet et des chaussures salamander rouges avec semelles compensées. Il allait danser. Quelle allure ! Alors, c'est un peu bizarre. Le monde lui apparaît sans dessus-dessous, c'est-à-dire que le ciel est en bas, le sol est en haut. Mais bon, on s'habitue à tout. Premier objectif pour Liwa Ekimakengai, retourner chez lui, chez sa grand-mère, plutôt Malembe, c'est elle qui l'a élevée. Elle est connue pour avoir réussi à obtenir une maison à elle, sans l'aide des hommes. C'est un peu un exploit. Elle habite du côté de la rue du Joli Soir.
Ah, c'est joli.
C'est ouais. Une rue qui existe, et le quartier des 300. Mais quand il arrive enfin, d'abord il est mal reçu. Certains crient au secours, et d'autres le chassent tout simplement, puisqu'il n'est pas le bienvenu en tant que fantôme. Faut dire qu'il n'est pas dans le bon timing aussi. Ses propres funérailles vont avoir lieu, il est en train d'y assister. Comme Tom Sawyer, vous vous souvenez, ouais. Ça tombe bien. Il était fan de ce roman, sauf que pour Tom, c'était un malentendu. Là, c'est très clair, il est mort. Et on revit avec lui ses dernières heures. On apprend à connaître sa vie aussi. Il était cuisinier pour le Victory Palace.
Ça sonne un peu comme un conte.
C'est exactement ça. Des contes même. On sent toutes les influences. Mais c'est aussi une déambulation dans Pointe-Noire. Une manière de parler du Congo d'aujourd'hui. On visite les quartiers riches, pauvres. On rencontre une kyrielle de personnages incroyables. C'est souvent drôle. Parfois un peu plus politique ou social. Mais sans le dire, sans le souligner, léger et profond, je vous disais.
Ouais, il n'a plus le droit d'y retourner à Pointe-Noire, Alain Mabankou. Ouais, ouais.
Et c'est sa manière d'y retourner, d'une certaine manière.
Exactement. Le commerce des allongés, donc son dernier livre, c'est chez Seuil. D'ailleurs, je signale qu'Alain Mabankou est à Paris. Aujourd'hui, il est en dédicace à la FNAC Saint-Lazare. Ce soir, entre 18h et 20h, pour ceux qui voudraient le rencontrer. Allez, on file au théâtre. Marie Jiquel pour Un seul en scène. Ça s'appelle La métamorphose des cigognes. C'est en ce moment au Théâtre de la Pépinière à Paris. Tous les lundis, puis en tournée dans toutes les régions. Pièce récompensée d'ailleurs par un Molière cette année.
Oui, on pourrait aussi appeler ce spectacle « La solitude d'un homme face au gobelet ». Alors, vous l'avez compris, Marc, le personnage principal, est en plein processus de fécondation in vitro et donc il est enfermé dans cette salle d'hôpital. Ses pensées galopent face à la panique du gobelet qu'il faut remplir.
On va mettre mon nom sur ce gobelet pour pas que vous le confondiez avec celui d'un autre. Monsieur Arnaud, c'est pas une soirée étudiante.
Alors, vous allez me dire, ça sent le vécu. Et effectivement, Marc Arnaud, l'auteur et le comédien, a eu sa première fille par FIV et cette expérience inspirante, eh bien, il en a fait ce spectacle humoristique mais aussi pédagogique.
Il y a un truc qui moi me plaisait beaucoup, c'était qui peut être un peu cathartique, c'est le rapport avec les médecins. C'est-à-dire que souvent on se retrouve face à un médecin qui sait ou qui du moins est censé savoir. Et je ne sais pas vous, mais alors moi j'ai l'impression d'avoir 5 ans et demi. Et ça me faisait rire et j'avais envie de le partager. Quoi.
Alors il n'y a pas de décor hein, sur scène, un tabouret, un gobelet évidemment et une dizaine de personnages, tous incarnés par Marc Arnaud, qui s'adresse parfois au public avec une pointe d'espièglerie.
Non, en fait ce que j'aime bien, c'est comme je dis aux spectateurs assez rapidement que je suis devant eux pour éjaculer dans un gobelet pour faire un enfant par fécondation in vitro, je sens une petite pointe de stress se propager dans le public. Ce qui n'est pas désagréable. Je sens aussi que la question qui taraude un peu les esprits, c'est comment va-t-il nous le représenter ? Que va-t-il nous faire ? Est-ce qu'on va assister à une perf ? Eh bien non, vous entendez ce son ? C'est un sachet de... Voilà, de confettis dorés.
Des paillettes pour représenter le sperme. Elle est là, notre caution poétique. Alors, il y a aussi des répliques qui fusent et des rires toutes les 20 secondes. C'est presque du one-man show. Une heure de sketch, j'allais dire, jouissif.
Voilà, bien vu. La métamorphose des cigognes, donc deux, et avec Marc Arnaud. C'est tous les lundis à 19h au Théâtre de la Pépinière à Paris jusqu'au 26 décembre. Et c'est plusieurs dates aussi en région. N'hésitez pas à vous renseigner. Merci beaucoup, Marie-Jicquel, Nicolas Carreau. À demain.
Merci, Dimitri. À demain.
Oh, attends, le livre culte demain.
Oui, absolument.
Et ce sera
Je cherche.
Lui cherche encore. Va vous aider. 7h50.
Europe Matin.
L'essentiel de l'actualité sur Europe 1, Alban Le Prince.
Le thermostat réglé sur 19 degrés. Le gouvernement dévoile en début d'après-midi son plan de sobriété énergétique. État, entreprises, particuliers, tout le monde est concerné. 4 salariés de RTE, gestionnaire du réseau d'électricité, en garde à vue à la DGSI. Ils sont accusés d'avoir débranché la téléconduite de postes électriques lors d'une grève. Olivier Véran reconnaît des tensions, mais pas de pénurie dans les stations essence. Environ 12% connaîtraient des difficultés, jusqu'à 30% dans les Hauts-de-France. Et puis la djihadiste rapatriée mardi en France avec ses deux enfants de Syrie n'est pas n'importe qui. C'est une information Europe 1. Il s'agit de la veuve de Romain Letellier, le premier cyber-djihadiste français à avoir comparu devant un tribunal.
Europe Matin, 7h, 9h, Dimitri Pavlenko.
Allez, place à l'édito politique. Bonjour Alexis Brézet.
Bonjour Dimitri.
Du Figaro, hier matin, Gérald Darmanin a ordonné l'évacuation du campement du Crac qui est installé à Paris, tout près de la porte de la Villette. Le ministre de l'Intérieur assure que ce démantèlement est définitif. Alors, les riverains n'y croient guère parce que du Crac à la Villette, il y en a depuis 40 ans. Est-ce qu'une fois encore, sur ce sujet éminemment compliqué, on nous raconte des cracks ?
Écoutez, déjà, on ne va pas reprocher à Gérald Darmanin d'avoir fait quelque chose. Ce qui se passe depuis plus de 20 ans à Paris, dans ces cloaques à ciel ouvert, est absolument abominable. C'est un enfer pour les riverains qui assistent quotidiennement à des scènes d'épouvante et qui vivent sous la menace perpétuelle d'agression. C'est un enfer aussi pour les toxicos qui sont réduits à un état quasi animal par cette substance terriblement addictive. Donc, toute intervention est bonne à prendre. Alors, Darmanin nous dit que cette fois, c'est la bonne, la dernière, la dernière, que les tentes ne reviendront pas et les réseaux criminels non plus. On aurait envie de le croire, mais on comprend que les habitants soient dubitatifs. Voilà plus de 10 fois qu'on leur chante la même chanson. Au fil des années, d'expulsion en réinstallation quelques rues plus loin, les craqueux sont passés de la place Stalingrad à la porte de la Chapelle, puis à la station Rosa Park, puis retour place Stalingrad, puis direction le jardin des Halles, puis passage par la rue Riquet, puis installation donc à la porte de la Villette. Et j'en oublie sûrement. Il y a de quoi être un peu sceptique. Quant aux fameux 1000 policiers déployés pendant dans Paris et censés, dixit le ministre, empêcher la reconstitution du campement. Là, j'avoue pas très bien comprendre, parce que ces 1000 policiers, ils ne vont pas patrouiller pendant 1000 ans. Surtout, ils ne vont pas faire disparaître par miracle des centaines de toxicos de la surface de la capitale. Cela, si on ne veut plus les avoir dans la rue, il n'y a pas 36 solutions. Soit on les expulse, soit on les enferme pour les soigner, et tout le reste est littérature.
Alors justement, Gérald Darmanin, Alexis, clame son intention de placer les clandestins en rétention et les autres en centre médico-social.
Ben, formidable, bravo. Hein. Enfin, pour expulser les clandestins, il faudrait les avoir arrêtés. Or, Comme les toxicomanes de la porte de la Villette ont été avertis de l'intervention policière par de belles âmes associatives, les deux tiers sont déjà envolés dans la nature et les trafiquants avec eux. Pour les autres, chacun sait que c'est mission quasi impossible d'expulser des clandestins. Les dealers, par exemple, sont très généralement sénégalais. Ils assurent qu'ils viennent du Gabon, qui ne les reconnaît pas comme ses ressortissants, et le tour est joué. Quant aux quelques toxicomanes qui sont, eux, placés en centre de soins, encore faudrait-il, si on ne veut pas les retrouver dans la rue, que l'objectif de ces structures médicales soit bien de les sevrer définitivement. Or, très officiellement, ça n'est pas le cas. Il s'agit de limiter les risques liés à la prise de stupéfiants dans le cadre d'une, je cite, consommation supervisée. C'est la logique désastreuse des fameuses salles de shoot.
Mais qu'est-ce que vous voulez dire, Alexis ? Rien ne marche, on ne peut rien faire ?
Non, je dis pas ça, et puis ce serait désespérant alors que la consommation de crack se répand dans la France entière. À Lille, place Philippe Lebon, à Bordeaux, au cœur du quartier Saint-Paul, mais aussi d'après la police, à Compiègne, à Rennes, à Niort, à Mâcon, etc. Il faut impérativement agir. Mais pour agir, il faut prendre la mesure du problème et pas se raconter d'histoire. L'explosion du crack n'est pas le fruit du hasard. Elle est le produit de nos abandons. Politique pénale, politique d'immigration, reconduite aux frontières, sécurité publique, lutte contre la toxicomanie, c'est tout cela qu'il faut revoir si nous voulons un jour endiguer vraiment ce fléau.
Merci beaucoup à Alexis Brézé. Tiens, on reparlera du crack à 8h40 dans le club de la presse européen avec Charlotte Dornelas et Adrien Matou de Marianne. On remontera la filière puisque ce crack, il est bien vendu par des dealers. Ces dealers viennent pour beaucoup du Sénégal. Et vous allez voir, on a des choses absolument incroyables à vous raconter. Je signale la une du Figaro, Alexis. Les prix de l'énergie, est-ce que l'Europe va changer les règles? Ces règles qui fonctionnent très bien en temps de paix, mais qui sont un peu inadaptées en ce moment. 7h55.
C'était l'édito politique avec le portail entreprise SNCF. Pour la réservation de vos billets, le portail entreprise SNCF, le site 100% dédié aux entreprises.
Allez, nous sommes le jeudi 6 octobre. Le saint du jour, c'est Saint Bruno, le fondateur de l'ermitage de l'ordre très austère des Chartreux. À suivre, l'invité d'Europe Matin au micro de Sonia Mabrouk ce matin, ce sera Philippe Devilliers, l'ancien ministre et écrivain pour son dernier livre, un roman historique, La valse de l'adieu, c'est aux éditions Plomb. 7h56, dans un instant, le journal et la météo. Nous sommes le jeudi 6 octobre, il est 8h.
7h-9h.
Europe Matin.
Dimitri Pavlenko.
À la une ce matin, télétravail, eau chaude, un peu moins chaude, covoiturage. Que contient le plan de sobriété du gouvernement? Comment les administrations, les entreprises, les particuliers vont-ils être invités à réduire leur consommation d'énergie? Europe 1 s'est procuré le texte de ce plan de sobriété qui va être présenté cet après-midi. Présentation dans un instant. À bout de souffle, trop cher, pas de grands films, concurrence des plateformes de streaming, rien ne va plus pour les salles de cinéma. La fréquentation atteint des plus bas historiques. L'économie est fragilisée. On fait le point dans un instant. Également dans ce journal, une femme djihadiste rapatriée de Syrie en France au début de la semaine. Qui est-elle vraiment? Information Europe 1 à venir avec William Molinier. Et puis à 8h13, votre invité ce matin, Sonia Mabrouk, bonjour.
Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Notre invité, Philippe Devilliers, fondateur du Puy du Fou, soutien d'Éric Zemmour pendant la campagne, écrivain. Il publie un nouveau roman historique, La valse de l'adieu. Alors va-t-il justement dire adieu à la politique? Après l'échec de cette présidentielle, sur ce sujet et sur son roman, Philippe Devilliers pour l'interview.
Mais d'abord le journal Fanny Marceau. Bonjour Fanny.
Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Terminé l'abondance, Emmanuel Macron l'avait prédit en août dernier. Cette fois, le gouvernement passe à l'action. Elisabeth Borne présente cet après-midi son plan de sobriété énergétique. Objectif, faire baisser la consommation française globale de 10%. En clair, Europe 1 vous le dévoile ce matin. Dans les administrations, dans les entreprises et à la maison, bien sûr, il faudra faire des économies. Bonjour Baptiste Morin.
Bonjour.
Journaliste au service économie d'Europe 1. Vous avez eu accès aux grandes lignes de ce plan de sobriété, tout le monde devra faire des efforts et c'est l'État qui va donner l'exemple.
Oui, l'État devra être exemplaire. Par exemple, les bureaux publics seront chauffés à 19 degrés maximum. La consommation d'eau chaude y sera rationnée. Des travaux énergétiques devront être menés dans les bâtiments publics. Dans leurs déplacements professionnels, les agents de l'État devront limiter la vitesse de leurs véhicules de fonction à 110 km/h sur l'autoroute. Et leurs voyages en avion devront, eux, être remplacés par le train si une alternative de moins de 4 heures de trajet existe. Enfin, les agents de l'État seront aussi incités à faire du télétravail. Voilà comment l'État compte réduire sa consommation de 10%.
Alors Baptiste, que prévoit le plan maintenant pour les entreprises ainsi que pour les établissements qui reçoivent du public ?
Rien de contraignant pour les entreprises. Le gouvernement veut les inciter à suivre le modèle de l'État. Pour les établissements qui reçoivent du public, c'est plus précis. Les commerces sont par exemple invités à réduire leur éclairage. Les hôtels sont invités, eux, à baisser la température des piscines intérieures et extérieures d'un degré. Les domaines de ski vont adapter la vitesse des télésièges à la fréquentation et les stades de football ou de rugby devront être éclairés moins longtemps avant et après les rencontres.
Et pour les particuliers, pas d'obligation, mais un appel au civisme de chacun et des conseils.
Et un slogan, je baisse, j'éteins et je décale. Ce sera la campagne du gouvernement à partir de lundi. Décaler la période de chauffe, par exemple, la débuter plus tard et l'arrêter plus tôt. Éteindre les appareils qui ne sont pas utilisés ou qui restent en veille. On a tous en tête l'exemple des box internet. Et enfin, baisser la température du chauffage à 19 degrés dans les pièces principales, 17 degrés dans les chambres. Et puis baisser la température du chauffe-eau à 55 degrés.
Baptiste Morin du service économie d'Europe 1. Nous sommes nombreux donc à devoir faire des efforts. Certains, en revanche, avaient déjà adopté la bonne attitude. Exemple à Grenoble, au siège de la société Schneider Electric. Depuis 2 ans, il est installé dans le bâtiment le plus performant du monde en matière de consommation d'énergie. Un immeuble référence qu'a visité Jean-Luc Boujon pour Europe 1.
C'est un bâtiment de 26 000 mètres carrés, aux murs dorés, aux parois vitrées, pouvant accueillir 1500 salariés. Un immeuble intelligent et vertueux qui, par exemple, régule lui-même la température intérieure et l'éclairage, explique Fabienne depuis 16 ans chez Schneider Electric.
Ça détecte les présences. S'il y a des présences, ça chauffe et puis ça s'éclaire. Et s'il n'y a pas de présence, ça s'éteint. Et pareil, on a des prises qui fonctionnent que la journée. Pour nous, c'est super parce que tant qu'on est là, on se branche, puis voilà. Et la nuit, en fait, il n'y a pas du tout de consommation.
Un bâtiment qui produit lui-même son électricité, détaille Alexandre.
Il y a des panneaux photovoltaïques sur le bâtiment D là-bas, des éoliennes aussi au niveau du parking de ce côté-là, qui alimentent une grosse partie du bâtiment.
Mais il y a encore plus fort pour Mathieu, très fier de travailler ici.
Une des améliorations qui est vraiment très impressionnante, c'est la peinture du bâtiment, qui en fait est thermochangeante, c'est-à-dire qu'elle va changer de couleur en fonction de la température qu'il fait dehors, pour refléter plus ou moins la lumière, et du coup récupérer la chaleur qu'on a du soleil, pour essayer de chauffer le moins possible en hiver. Moi je suis très fier du coup de pouvoir travailler là tous les jours. Il montre aussi que c'est possible de allier le confort, la modernité et puis d'être respectueux de l'environnement.
Un bâtiment qui est devenu la vitrine technologique de l'entreprise et une référence mondiale en matière de performance énergétique. Grenoble, Jean-Luc Boujon, Europe 1.
Et bien sûr, sur le site europe1.fr, vous pouvez retrouver tous les détails de ce plan qui sera présenté cet après-midi par Elisabeth Borne.
La version non définitive, on le précise, parce qu'évidemment, ça va bouger jusqu'au dernier moment.
Évidemment. Il est 8h04 sur Europe 1. Dites, Dimitri, au cinéma, vous êtes plutôt Simone Veil, Petit Nicolas ou Revanche des humanoïdes ?
Ah, les humanoïdes, ça me tente bien.
Ce sont tous
oui,
des films.
Petit Nicolas, tiens, ouais, si c'est bien.
C'est vrai que c'est pas mal. Ça sort mercredi prochain. Cela dit, on se pose la question ce matin sur Europe 1. Le public sera-t-il au rendez-vous? En septembre, les cinémas ont enregistré leur plus faible taux de fréquentation depuis 1980. Il faut dire que la crise sanitaire et la concurrence des plateformes de streaming ne leur ont pas fait de cadeau, ce qui menace la santé économique des salles obscures. Margot Fodéré.
Seulement 105 millions de spectateurs se sont rendus dans les salles de cinéma depuis le début de l'année, un chiffre en baisse de 30% par rapport à 2019 et qui s'accompagne d'une diminution de leur chiffre d'affaires, 742 millions d'euros depuis janvier contre 1,5 milliard pour une année normale. Alors certes, il reste 3 mois avant la fin de l'année, mais on est quand même loin du compte, et ce alors même que le ticket de cinéma en France est souvent moins cher que dans d'autres pays européens, 7,07 € contre 9 euros en Italie et même 12 en Allemagne. Le problème, c'est que les Français ont l'impression de payer trop cher, selon Richard Patry, président de la Fédération nationale des cinémas français.
Moins de 15% des spectateurs payent le tarif le plus cher dans un cinéma. Vous avez en France des gens qui payent le cinéma moins de 4 euros la place de cinéma. Les gens ne regardent que le prix le plus cher.
À la frilosité des spectateurs s'ajoute l'envolée de la facture énergétique qui peut représenter jusqu'à 10% du chiffre d'affaires de certaines salles et le coût de la modernisation des projecteurs jusqu'à 50 000 euros par salle.
Margot Fodéré.
Europe 1, 8h06, elle est arrivée en France lundi matin avec ses deux enfants. Ce matin sur Europe 1, on en sait un peu plus sur cette nouvelle djihadiste franco-marocaine rapatriée de Syrie.
Et placée en détention provisoire et mise en examen pour association de malfaiteurs terroristes criminels. William Molinier, vous avez enquêté, vous nous révélez ce matin sur Europe 1 qu'elle est aussi la veuve d'un djihadiste français bien connu.
Oui, cette franco-marocaine est la femme de Romain Letellier, surnommé Abou Siyad en Normandie, se convertit à l'islam originaire du Calvados et considéré comme le tout premier cyber-djihadiste français à avoir comparu devant un tribunal. C'était en 2014, il était alors l'administrateur du forum Ansar Alak, un des rares sites de propagande djihadiste accessible à l'époque en français. Il a été condamné à 3 ans de prison, dont un ferme pour apologie d'actes de terrorisme. Puis il est sorti de prison après son incarcération. En 2015, il rejoint la zone irako-syrienne avec sa femme et son enfant. Romain Letellier était chargé de la propagande de Daesh sur les réseaux sociaux. Il aurait été tué par des frappes de drones américains. À son arrivée sur le sol français, sa femme a été remise entre les mains de la DGSI. En 2013, elle expliquait à nos confrères de Ouest-France qu'il n'y avait qu'un seul islam. L'islam modéré ne veut rien dire, ce sont des hérétiques. Fin de citation. Sa garde à vue peut durer jusqu'à demain soir.
William Molinier.
Et puis à Paris, après le démantèlement hier matin d'un campement de consommateurs de crack dans le 19e arrondissement, 800 policiers sont toujours mobilisés.
Leur mission, s'assurer que les craqueux ne se réinstallent pas dans le secteur. Bilan de l'opération hier, 52 sans-papiers placés en centre de rétention administratif, 63 personnes mises à l'abri, 39 interpellations et 5 toxicomanes particulièrement dépendants qui ont été hospitalisés.
Et place au sport, les Jeux Olympiques de Paris 2024, ça se précise.
Oui, on connaît depuis hier le parcours du marathon qui terminera les Jeux, un tracé qui s'annonce comme l'un des plus durs jamais proposés aux athlètes olympiques, Axel May.
Oui, par sa longueur, 42 km 195, le marathon est déjà une épreuve épuisante. Mais en principe, les parcours sont plus ou moins plats. Fidèles à leur volonté d'innover, les organisateurs des Jeux de Paris proposent, eux, un tracé très difficile avec deux belles côtes, l'une à Versailles, l'autre à cheval sur les municipalités de Chaville et Meudon, plus de 400 mètres de dénivelé positif et autant en descente. Johan Durand est l'un des meilleurs marathoniens français.
Des marathons comme ça, il n'y en a jamais eu. Même au JO d'Athènes en 2004, avec Athènes qui a même une ville vallonnée, il n'y avait pas autant. Donc c'est atypique, ça ne s'est jamais vu. C'est quelque chose de chouette.
Le patron des Jeux de Paris, Tony Estanguet, savoure le choix de ce parcours.
On a discuté aussi avec les athlètes, parce que pour eux, c'est une difficulté supplémentaire. Mais c'est un marathon où il y aura du suspense qui sera très spectaculaire et qui va aussi valoriser cette discipline.
À la notion sportive s'ajoutera une notion symbolique puisque pour la première fois de l'histoire de l'olympisme, les épreuves féminines et masculines du marathon vont permuter. Les femmes courront le dernier jour des Jeux, le dimanche 11 août 2024, quelques heures avant la cérémonie de clôture.
Axel May du service des sports d'Europe 1. Autre nouveauté, des amateurs pourront emprunter soit le parcours complet de ce marathon, soit un parcours réduit de 10 km. Environ 37 000 dossards sont à gagner en s'inscrivant sur le site des Jeux de Paris. Je sens que ça vous plaît, ça, Dimitri. Je vous vois bien faire le marathon.
Oui, plutôt les 10 km que les 42. Je vous avoue, je n'ai jamais tenté 42. Je pense que je ne terminerai pas. Je pensais que je vais mourir, peut-être même. C'est fort probable. Tiens, d'ailleurs, à propos des Jeux Olympiques, Tony Estanguet, le président du comité d'organisation des JO de Paris 2024, ce soir de 20h à 20h30, l'invité de Virginie Fulpin et Jacques Vendroux dans Europe 1 Sport, dans le cadre des décideurs du sport, tous les dossiers chauds des Jeux Olympiques, sujet de la sécurité aussi très très important, seront sur la table. Merci beaucoup, Fanny. À demain. Dans un instant, Philippe Devilliers est l'invité de Sonia Marouk sur Europe 1.
Europe 1.
Votre invité ce matin, Sonia Mabrouk, fut ministre, concepteur de parc à thème, écrivain également.
Bienvenue ce matin sur Europe 1 et bonjour Philippe Devilliers.
Bonjour Sonia Mabrouk.
Effectivement, vous revenez en librairie avec un genre que l'on vous connaît bien, le roman historique écrit à la première personne, La valse de l'adieu chez Plon, et un style que l'on vous connaît aussi exalté, épique, chevaleresque. Est-ce que vous trouvez, Philippe Devilliers, qu'on manque d'épopée et d'exaltation en ce moment ?
Oui, et c'est très grave parce qu'en réalité, si on ne donne pas à des jeunes Français de papier qui voudraient devenir des Français de désir accès à nos héros, à nos saints, à nos légendes, à nos bravoures, à nos vies sacrificielles, à tout ce qui fait la grandeur, l'élégance et le poème français, eh bien, ils se tournent déjà vers d'autres saints, vers d'autres héros, vers d'autres légendes, vers d'autres bravoures, vers d'autres gloires et vers d'autres vies sacrificielles. Et c'est un drame. Nous vivons un mémoricide et un génocide en même temps. Un génocide parce qu'il y a un changement de population, c'est
un
clair.
Un génocide, Philippe Devilliers ?
Un génocide du peuple français, oui.
Un génocide.
Oui,
vous employez.
J'appelle génocide un basculement démographique qui fait que dans 30 ans, le problème est réglé. Il suffit d'aller dans la rue pour le voir. Et un mémoricide, c'est-à-dire une désaffiliation C'est-à-dire qu'on n'offre plus aux jeunes Français ce qu'était le roman national, c'est un roman d'amour.
Mmh. Quand vous dites génocide, c'est-à-dire qu'il y a une volonté consciente, et là, c'est plus que de remplacer un peuple. Si on prend l'expression, c'est d'en finir avec un peuple. Vous assumez cela ?
Ce sont des générations qui, depuis 40 ans, depuis le regroupement familial, en fait depuis Giscard, se sont succédées. Avec l'idée qu'on pouvait faire une expérience à partir d'un espace qui s'appelle l'Hexagone. Et cette expérience consiste à faire venir des générations et des générations d'émigrés qui, avec la meilleure volonté du monde, et d'ailleurs coupés de leurs racines, cherchent à recréer chez nous un petit peu de ce qui est au cœur de leurs patries intimes. Et c'est un véritable drame. Et quand on entend Emmanuel Macron qui dit... il faut repeupler les campagnes.
Répartir les migrants les campagnes et les petites villes aussi.
Les répartir,
comment vous réagissez?
Je réagis en disant il fait le grand emplacement. Voilà. Il fait le grand emplacement. C'est-à-dire que petit à petit, après avoir installé tous les quartiers qui ont déséquilibré les villes, on va installer des quartiers dans les campagnes et. On va installer une véritable colonisation. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez des gens de l'extérieur qui vont arriver dans les campagnes avec leurs mœurs. Et ce ne sont pas les campagnes qui vont s'adapter, qui vont imposer leurs mœurs. Ces nouvelles colonies qui vont imposer leurs mœurs à nos campagnes. Et donc, en fait, ça en sera fini de la France.
Vous commencez fort, Philippe de Villiers. Ça fait 2 minutes qu'on a démarré cet entretien. En 2 minutes, on a eu droit à génocide, grand remplacement, la fin du peuple français.
Oui. Oui, moi je suis très inquiet pour la France. Vous savez, qu'est-ce qu'une nation ? Une nation, c'est des souvenirs communs. Que reste-t-il de nos souvenirs communs ? Est-ce qu'on les cultive ? Est-ce que vous parliez d'exaltation tout à l'heure ? Est-ce qu'on exalte notre patrimoine ? Ensuite, c'est un art de vivre. Quand on voit que la Commission de Bruxelles nous impose une petite fillette voilée, où est notre art de vivre à l'européenne
c'est
et à la française
qui a été
et enfin, troisièmement, c'est une langue. Quand on voit l'écriture inclusive qui petit à petit s'impose comme une tache d'huile, quand on voit le wokisme, on a de quoi être inquiet.
Mais
donc
Philippe
je suis
Villiers,
inquiet
attendez.
Parce que la France, c'est une marqueterie fragile.
Est-ce que la recherche du frisson de l'âme, est-ce que la recherche de l'émotion que vous exaltez vous autorise à tordre parfois l'histoire pour la façonner à votre manière, comme vous le reprochent vos détracteurs, notamment d'ailleurs au Puy du Fou ?
Alors en fait, les gens qui disent ça d'ailleurs auront bientôt la possibilité de se réunir sous un abri à trottinette tellement ils sont peu nombreux, les gens qui viennent au Puy du Fou, parce que vous y faites allusion, sont de plus en plus nombreux, c'est la France populaire, la France en manque, la France qui nous dit rendez-nous nos racines. Mais je vais vous répondre de manière plus, en prenant plus de hauteur, en 1870, les historiens républicains, autour de celui qu'on appelait l'instituteur national, Ernest Lavis, ont fait un constat. Il n'y a plus de fédérateur depuis que Saint-Crem a disparu. Il faut qu'on trouve un fédérateur de substitution. Un fédérateur pour fédérer les Français autour de notre mémoire vivante.
D'ailleurs, quelles que soient leurs origines, quelles que soient leurs croyances,
oui, absolument. Il y a un historien communiste, d'ailleurs, qui s'appelait Lefebvre, qui disait « Celui qui parle mal de Jeanne d'Arc est un salaud ». Donc, tout le monde était d'accord sur l'idée qu'il fallait aller chercher la petite bergère qui avait touché au Saint-Crème, Clovis qui avait touché au Saint-Crème, etc. Ce fut le roman national. Et, en fait, le roman national a préparé l'Union sacrée. Et en mai 68, le roman national a pris un cocktail Molotov. Et l'histoire a été livrée, en quelque sorte, aux sciences sociales jargonnantes, mortifères, et on a tué l'épopée.
Vous voulez dire que le récit national a reçu un cocktail Molotov depuis la Sorbonne. Mais aujourd'hui,
oui.
Philippe de Villiers...
Alors, attendez, mais aujourd'hui, justement, aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que le roman national est mort et il n'a jamais été remplacé. Et ce que moi, je dis, c'est qu'il faut... Pour faire une nation, il faut un lien amoureux.
Oui.
Il faut refaire un peuple amoureux.
Mais quelle légitimité Certains peuvent vous poser la question, je vous la pose ce matin, avez-vous pour refaire ce récit national? Parce que quand on voit ce que vous écrivez, quand on lit surtout ce que vous écrivez depuis des années, Philippe de Villiers, du roman de Saint-Louis au mystère Clovis, en passant par le roman de Jeanne d'Arc jusqu'à ce dernier ouvrage, La valse de l'adieu, est-ce que vous vous êtes fixé comme mission de reconstruire, de réécrire une version, un récit national de l'histoire face à ceux qui veulent la déboulonner, cette même histoire?
Oui, exactement. Moi, je...
D'où vous vient cette mission, cette onction?
Non, je n'ai pas de mission, j'ai simplement, je ressens douloureusement quand je vois des jeunes assoiffés, des âmes en manque, à plantes palpitantes qui disent « on voudrait savoir d'où on vient, on voudrait savoir ce que c'est que les mousquetaires, on voudrait savoir ce que c'est que la colombe du baptistère, on voudrait savoir d'où vient la France, ce qu'est la France pour pouvoir l'aimer. » Eh bien, je me dis, il faut que quelqu'un fasse ça.
Donc on ne donne pas à aimer la France?
Non, parce que aujourd'hui, les historiens, pour beaucoup d'entre eux, sont devenus des médecins légistes. On ne fait même plus de chronologie, on fait de la statistique. Et donc, cette histoire froide, spectrale, qui est proposée à nos jeunes, ne peut pas les enthousiasmer. Et je n'ai pas répondu tout à l'heure à une petite incise. Le récit national, ce n'est pas le roman national. Le roman national, c'est le récit légendé. C'est-à-dire que Churchill avait dit, je crois que c'est lui, ou peut-être Saint-Ignan, si vous trouvez que la légende est plus belle que l'histoire, alors imprimez la légende.
Mais c'est la
et d'ailleurs,
que
c'est ce que
poser.
Fait Victor Hugo. Oui, et Cocteau disait, oui. L'histoire, c'est du faux, c'est du vrai c'est du faux qui s'incarne, pardon. Et la légende, c'est du vrai qui se déforme.
Oui, mais jusqu'où faut-il aller dans, dans la façon de travestir cela? Parce qu'il y a beaucoup de gloire, de glorification dans ce livre et dans vos romans historiques en général, Philippe de Villiers. Est-ce que vous ne reconnaissez pas aussi, derrière les grands personnages, qu'il peut y avoir des pages sombres, des fautes lourdes, un besoin de repentance, comme le soutient d'ailleurs Emmanuel Macron?
Alors en fait, quand on est français, la France, c'est une... Qu'est-ce que c'est qu'une nation? C'est une famille de familles. Bernanos disait, une nation, c'est comme une famille, c'est un drame moral. Et on ne choisit pas la couleur des souvenirs qu'on embrasse. Quand on est français, on accepte tout. On accepte tout, y compris les fautes, parce que c'est la grande famille.
Mais on est lucide sur les fautes, l'êtes-vous?
Comment?
On est lucide sur les fautes aussi, l'êtes-vous?
Bien sûr, dans mon livre... La valse de l'adieu, j'évoque Napoléon. Et je l'évoque longuement puisque le personnage que je suis et qui a réellement existé, qui s'appelle Jean O'Gonil, a suivi l'empereur, notamment au moment de la campagne de Russie. Mmh. Et après avoir été bonapartiste dans un premier temps, il a entendu des caporaux qui disait dans la neige, au moment du retour, avant la Bérézina, on aurait dû passer 14 jours, 15 jours à Moscou, mais pas plus. Là, 34 jours, on est revenu et on n'a pas de chevaux ferrés, on n'a pas de traîneaux glissants, on n'est pas équipé. Comment un conscrit peut-il faire une erreur pareille? Et donc, en fait, le Napoléon d'Austerlitz est devenu dans le cœur de ces grognards un conscrit pubère et qui fait des erreurs de conscrit
pubère.
Donc
vous racontez la lumière et les ombres aussi liées à ce grand personnage. La lumière, ce sont aussi des coups d'éclat, de l'excès parfois. Éric Zemmour, justement, venons-en aussi à la politique. Philippe de Villiers t'adapte de la stratégie des coups d'éclat permanents à ce sujet et au sujet de son rêve politique brisé à la présidentielle et peut-être aussi un peu beaucoup le vôtre. Que reste-t-il du zemmourisme aujourd'hui?
Éric Zemmour laisse derrière lui quelque chose qui ne s'effacera pas et qui fait qu'il entre dans l'histoire et non pas dans les urnes. L'histoire, c'est beaucoup plus important que les urnes. C'est le concept du grand remplacement. Remplacement d'un peuple, remplacement d'une civilisation. Et donc, qu'est-ce qu'on voit depuis la présidentielle? On voit, à travers l'exemple que je donnais tout à l'heure, mais bien d'autres exemples, qu'il avait raison, avant tout le monde. Un exemple qui me révolte et qui indigne beaucoup de Français, c'est le décalage entre ce qui se passe dans nos écoles et sur les réseaux sociaux, sur la question du voile, avec une véritable propagande effrontée, une provocation systématique, c'est-à-dire qui invite les jeunes filles, les jeunes gens à porter le camis,
la baïa et d'autres.
Etc. Et le décalage avec l'Iran. C'est-à-dire qu'en Iran, le voile est un instrument de soumission des femmes, avec utilisation de leur corps à des fins théologiques. Et en France, c'est un instrument de liberté, selon les néo-féministes. Et donc ça, c'est quelque chose qui ne va pas. C'est quelque chose qui est en train de nous détruire.
Mais alors, pourquoi dans les urnes, ça n'a pas marché? C'est la question, Philippe de Villiers. Puisque vous semblez dire qu'Éric Zemmour a tout vu avant tout le monde, en tous les cas avant beaucoup de monde. Pourquoi ça n'a pas matché où c'est le plus important,
le 24
dans les
février
urnes.
2022, vous vous en souvenez sans doute.
Évidemment.
Il y a eu l'invasion de l'Ukraine.
Un basculement.
Et donc, il n'était plus sur son sujet.
Il n'a pas vu venir cela. Il a pas. Comment la guerre d'Ukraine et justement la question des réfugiés ukrainiens va casser cette campagne?
Non, alors ça, c'est pas la question des réfugiés. C'est beaucoup plus grave et beaucoup plus large que ça. Ça ne le concerne pas. Ça concerne le pays tout entier et la campagne tout entière, puisque c'est grâce à ça qu'Emmanuel Macron a été élu. C'est qu'à partir du moment où il y a eu la question de l'Ukraine, l'invasion de l'Ukraine, eh bien, les préoccupations des Français n'étaient plus les mêmes. Les préoccupations des Français, c'était plus le grand remplacement, c'était le grand manquement. C'est-à-dire le manquement de sucre, manquement d'essence. Et la campagne se déplaçait à la pompe, à l'essence et au supermarché.
Mais reconnaissez que la question des réfugiés a été quand même un point de basculement et un marqueur dans cette campagne d'Éric Zemmour. D'ailleurs, on peut s'étonner qu'en politique avertie vous-même, Philippe de Villiers, vous ne l'ayez pas conseillé. Mais peut-être ne vous écoute-t-il pas?
Non, mais moi, j'ai rien à dire là-dessus.
Vous étiez quand même dans la campagne. Vous souffliez à l'oreille d'Éric Zemmour.
Moi, j'étais un conseiller d'Éric Zemmour discret. D'ailleurs, je ne me suis jamais exprimé.
Pourquoi d'ailleurs? Pourquoi ce
pour
silence durant
simple,
toute la campagne?
C'est que quand on est le conseiller d'un candidat, on ne cherche pas à le remplacer.
Certains l'ont fait? On cherchait
non,
à le faire?
Non, pas du tout, mais ça se fait souvent dans les partis politiques. Nous, ce n'était pas le cas et moi, ce n'était pas mon cas. Voilà.
Est-ce qu'au fond, vous étiez à votre place, Philippe de Villiers? Est-ce qu'il n'y a pas de la déception et de l'amertume aujourd'hui? Parce que vous, vous préférez, on le sait, on le lit d'ailleurs, on le connaît à travers toutes vos prises de position, la métapolitique à la politique.
Non, je vais vous dire, la politique dépend de la métapolitique. La métapolitique, ce sont les valeurs fondatrices. Voyez, et donc, la France ne se ressaisit pas, ne retrouve pas le régalien, l'État, la souveraineté et l'identité, notre pays va mourir. Vous voyez, là, ce que je reproche à Emmanuel Macron aujourd'hui, c'est qu'en fait, il fait trois choses. Il y a trois blessures. Une blessure dont on a parlé sur l'immigration, donc son geste sur l'immigration dans les campagnes, ça veut dire, allez, on va continuer, on ouvre les vannes.
Oui.
Deuxièmement, quand il supprime le corps préfectoral et le corps diplomatique, c'est ce qui tient la souveraineté interne et la souveraineté externe. Et enfin, quand il prépare l'euthanasie, il abolit ce que le grand rabbin Haïm Korsia appelle, enfin, il parle d'une rupture anthropologique majeure. Il abolit
si
le
on vous entend,
tu ne tueras
oui,
pas du décalogue.
Philippe de Villiers, tout est noir, initié par Emmanuel Macron. Mais alors pourquoi, je pose de nouveau ma question, cela n'a pas accroché avec Éric Zemmour dans les urnes? Que reste-t-il aujourd'hui du zémorisme? Vous étiez quand même au cœur de cette campagne.
Alors, moi, je ne suis pas du tout là. Je suis venu à votre antenne pour parler de mon livre. Et je ne suis pas du tout venu pour refaire un carnet de campagne et regarder derrière moi dans le rétroviseur. Donc la campagne, elle est terminée. Ce dont je vous parle, c'est de la France de demain.
Attendez, elle est terminée, c'est-à-dire qu'il y a une page qui s'est tournée, même avec Éric Zemmour, pour vous?
La campagne, non, mais la campagne, elle est finie, donc elle est derrière nous. Maintenant, on a au pouvoir, on a une assemblée que vous connaissez, vous voyez ce qui se passe. Bon, voilà, et vous voyez tous les jours les décisions qui sont prises. Par exemple, on explique aux Français qu'on va rentrer chez eux pour leur couper le chauffage, etc. Ben, c'est quand même une situation. On est dans une situation très grave quand on voit le néo-féminisme, quand on voit le wokisme.
Mais attendez, la sobriété.
Vous ne parlez pas du wokisme. Le wokisme, alors, c'est très grave. Il y a un livre qui vient de sortir de Jean-François Bronstein qui s'appelle La religion woke. La religion woke, ça consiste à dire que l'ennemi, c'est l'homme blanc, occidental, hétérosexuel, forcément sexiste et raciste.
Philippe de Villiers, dénoncer...
Est-ce qu'on peut faire une nation avec ça ?
Dénoncer la radicalité, les excès de cela, oui, mais est-ce qu'il ne faut pas aussi, j'en reviens au coup d'éclat, pour faire avancer certaines causes, notamment la cause des femmes, de la lutte contre les violences faites aux femmes ? Non ? Est-ce qu'il ne faut pas un peu bousculer les choses aussi ?
Alors, la cause des femmes, quand on soutient la cause des femmes en termes de libération, c'est une bonne chose. Quand on la soutient en termes d'inquisition, ça devient une mauvaise chose.
Je rappelle le titre de votre livre, Philippe de Villiers, La valse de l'adieu. Il n'y a pas d'adieu pour la politique, pour vous ?
C'est quand on aime la France, il n'y a jamais d'adieu. La politique, c'est, comme disait Saint-Augustin, c'est la plus haute forme de la charité.
La valse de l'adieu chez Plomb. Merci Philippe de Villiers d'avoir été notre invité ce matin.
Merci Philippe de Villiers et merci Sonia Mabrouk. Dans un instant sur Europe 1, au menu compteur Linky avec Géraldine Vosner, de l'eau en vrac avec Emmanuel Ducrot. Et on ira faire un petit tour à la Villette, le quartier qui va craquer, dans le club de la presse Europe 1 à 8h40.
7h, 9h, Dimitri Pavlenko.
8h32, le journal permanent, l'essentiel de l'actualité. Christophe Lamarre.
Pas plus de 19 degrés, lutte contre les gaspillages à tous les étages, dans le public comme dans le privé. Un mot d'ordre, chaque geste compte. Le gouvernement dévoile cet après-midi son plan de sobriété énergétique pour passer l'hiver. Les détails des mesures envisagées sont à retrouver sur le site europe1.fr. 4 salariés de RTE, le réseau de transport et d'électricité, en garde à vue dans les locaux de la DGSI. Ils sont soupçonnés d'avoir volontairement saboté le réseau informatique de l'entreprise, de quoi provoquer des coupures de courant selon un enquêteur. Des tensions mais pas de pénurie de carburant dans les stations-service. Selon le porte-parole du gouvernement Olivier Véran, environ 12% des stations seraient à sec. La situation varie d'un département à l'autre. Dans le Pas-de-Calais, le Nord et la Somme, la préfecture interdit le remplissage des jerrycans. La réforme des retraites sera présentée d'ici mi-décembre. D'ici là, le ministre du Travail pilotera 3 cycles de discussions successifs, chacun consacré à un thème précis. Première réunion prévue avec les syndicats lundi prochain autour de l'emploi des seniors et de la prévention de l'usure professionnelle.
Merci Christophe Lamarre. Tiens, sondage au Doxa, Groupama, vous parlez des retraites. 66% des personnes interrogées pensent que les caisses de retraite n'auront pas la capacité de leur verser leur pension. C'est-à-dire la confiance actuelle dans le système. Tiens, autre chiffre, les retraites des femmes, 40% inférieures à celles des hommes, selon un rapport de la DRESS publié l'an dernier. Bon, voilà. Passons au temps. Anissa Dadi, un peu plus
c'est
de
plus
soleil
positif.
Aujourd'hui.
Oui, c'est la oui. Meilleure nouvelle du côté de la météo, puisque encore ce matin, quelques brouillards, mais qui vont très vite se dissiper. Et c'est le soleil qui va prendre le relais cet après-midi. On a beaucoup moins de pluie qu'hier. Hein. Et dans le nord-ouest, vous allez pouvoir retrouver une journée d'automne très agréable. On n'a même pas de vent sur les littoraux. C'est vraiment très calme. Attention aux entrées maritimes qui vont vraiment stagner sur les côtes varoises. Ça sera un petit peu plus gris cet après-midi. Alors les températures, elles sont plus fraîches sur la moitié nord avec 18 degrés à Cherbourg, 19 à Brest, Rennes et Châteauroux, 20 degrés. Alors là, une brochette de 20 degrés à Besançon, à Paris, à Bordeaux, à Saint-Etienne, à Nantes, à Lille, à Strasbourg, 21 à Nice, 23 degrés pour Lyon, 25 à Carcassonne et 27 pour Nîmes.
Pas mal, 27 à Nîmes.
À Narbonne aussi,
magnifique,
par exemple, 27 degrés.
Merci beaucoup Anissa, 8h34.
7h, 9h, Europe Matin.
Et c'est l'heure des signatures. Europe 1, Emmanuel Ducrot, dans un instant, qui va nous parler eau en vrac. Bonjour Emmanuel.
Bonjour Dimitri, bonjour Géraldine et bonjour à tous.
Bon, eh bien d'abord Géraldine Vosner, vous l'avez annoncé. Géraldine, vous nous parlez ce matin de la malédiction du compteur Linky.
Oui, une malédiction qui révèle l'un des paradoxes qu'on est en train de vivre. Ce compteur Linky, qui avait été pensé, conçu justement pour aider la transition énergétique, est rejeté par ceux-là même qui se prétendent les plus vertueux en matière de sobriété. Et j'aimerais qu'on ausculte ce matin la psychose qui a saisi le pays hier quand on a appris, attention, roulement de tambour, Kennedy allait nous couper l'eau chaude pour éviter les blackouts. En une seconde, tous les fantasmes entourant ce compteur ont ressurgi. Le gouvernement nous espionne, il veut nous soumettre à sa volonté et il le fait.
Il peut couper le courant à distance.
Ouais,
voilà.
En douce, le fourbe, c'est un complot. Alors je vous rassure, non, on ne va pas couper l'eau chaude chez les gens. Ce que va faire Enedis, c'est simplement décaler le moment où le chauffe-eau s'active pour certains clients qui ont choisi de le recharger aux heures creuses. Ça concerne 4,5 millions de foyers. Leur chauffe-eau sera rechargé la nuit, plus entre midi et deux. Et ça ne se fait pas par magie. Il faut un contacteur sur le tableau électrique que vous pouvez activer manuellement. Donc concrètement, imaginez un coiffeur qui aurait besoin d'eau chaude l'après-midi, qui dirait non, ça m'arrange pas votre truc. Il lui suffira de tourner le bouton, il aura son eau chaude.
Alors, on laisse la main à Enedis ou pas. Voilà. Comme si vous avez raison, c'est très important de clarifier. Vous nous expliquez quand même, en fait, Géraldine, qu'on s'est un peu affolé pour rien là, dans cette histoire-là.
Oui, et ça en dit long sur notre état d'esprit au moment où le système électrique est par terre, qu'il faut économiser pour éviter que les usines ferment. Ça coûte 33 milliards à la France, un blackout. Ça vaut quelques douches.
33 milliards,
ouais. Donc, on voit ce mouvement fascinant quand les écologistes les plus radicaux, anti-Linky, s'allient avec les complotistes pour taper sur l'outil qui pourrait nous aider. Parce que c'est ça, le compteur Linky. Il faut rappeler son histoire. Quand les Verts s'allient avec François Hollande, avant son élection, qu'ils obtiennent de lui la fermeture de 24 réacteurs nucléaires, ils savent qu'il va falloir gérer la pénurie, organiser la sobriété, et ils poussent ce compteur Linky. C'est Delphine Bateau qui en fait la promotion à l'époque. L'installation est lancée à marche forcée, c'est vrai, par Jean-Marc Ayrault.
Alors, dans la douleur, on s'en souvient.
Et oui, parce qu'il n'avait pas vu venir l'opposition des décroissants et des technophobes radicaux qui ont vu dans ce compteur un piège capitaliste. Il faut lire les propos tenus à l'époque par Michel Rivasi, par exemple, ces militants antinucléaires qui ont pris la tête de la fronde. Linky, c'était l'espionnage, un cocktail d'ondes électromagnétiques. La technophobie, la défiance sont telles en France que ce discours a pris. Résultat, les pouvoirs publics sont tétanisés. Personne n'ose utiliser le potentiel de Linky pour gérer la crise. Alors, je ne suis pas personnellement pour la décroissance ou la sobriété forcée, mais il faut être cohérent. On a dépensé 5 milliards pour installer ces compteurs. Il est fou qu'on préfère que des usines ferment aujourd'hui plutôt que s'en servir.
Ça rappelle un peu les portiques Ecotax, même si en l'occurrence les Linky sont installés. Mais qu'est-ce qu'on pourrait faire avec ces fameux compteurs qu'on se prive de faire, justement, Géraldine ?
Pas mal de choses. Baisser la puissance, par exemple, au moment des pics de consommation.
Ça a été envisagé,
envisagé. Effacer au besoin certains équipements les moins indispensables. Ces potentialités ne sont pas du tout exploitées. Elles peuvent paraître totalitaires à certains. C'est légitime et je le comprends, mais on devrait pouvoir en débattre. Comme politiquement, c'est lourd à porter, personne ne le fait. On préfère imposer des délestages aux usines, voire les payer pour qu'elles ferment. Ouais. Je ne suis pas certaine qu'à long terme, la collectivité y gagne.
Effacement d'un équipement, ça veut dire on le coupe, on l'éteint.
On baisse sa puissance, on peut moduler.
Juste un truc, 33 milliards, un blackout, c'est-à-dire si jamais on coupait le courant, qu'on perdait le courant...
Quand on perd un blackout, c'est une estimation évidemment, mais c'est effectivement le coût collectif d'un blackout, d'un seul blackout.
Ah oui, donc un an de bouclier énergétique et tarifaire. Ouais. Ah, c'est quand même assez stupéfiant. Merci beaucoup Géraldine Vosner, toujours d'une précision absolument remarquable, tout comme vous d'ailleurs Emmanuel Ducrot du journal L'Opinion. Ce matin, vous nous racontez comment Danone expérimente la vente d'eau en vrac pour sortir des bouteilles en plastique. Racontez-nous le cheminement, pas toujours évident à saisir de cette idée qui, pourtant, est assez consensuelle.
Oui, mais c'est une idée née de la contrainte. Vous le savez, la loi de 2020 contre le gaspillage impose une réduction de moitié de la quantité des bouteilles en plastique d'ici à 2030. Mmh. Alors, avec des étapes. En janvier 2023, une première, il sera interdit de distribuer de ces petites bouteilles dans les hôtels, les cantines d'entreprise.
Ah oui, janvier 2023, dans
3 mois.
Et oui,
c'est demain. Pour les vendeurs d'eau minérale, c'est un sacré changement. Et Danone, donc lance une expérience. Tous ses concurrents travaillent sur des sujets similaires. Mais là, c'est un test de 3 mois avec la marque Evian pour vendre de l'eau en vrac, c'est-à-dire l'eau sans la bouteille.
Comment on fait ? On rouvre des puits ? Comment on fait ?
Alors j'aimerais bien vous raconter tout ça parce que finalement ça veut dire repartir de zéro pour les embouteilleurs.
C'est
alors
vrai.
Danone a imaginé une sorte de fontaine dans laquelle on loge des bonbonnes scellées de 11 litres remplies à Evian avec toutes les caractéristiques de l'eau telle qu'elle sort de la source, y compris la température, 11,6 degrés, c'est précis. Et les consommateurs y rempliront leur propre bouteille. Ça doit être facile, ça doit être propre, ça ne doit pas compliquer la vie des consommateurs.
Mais ça c'est presque le plus facile ça.
Ouais. Ben oui, c'est presque le plus facile, mais c'est ça qu'a découvert Evian. L'expérience soulève des quantités de questions pour le consommateur. D'abord, qu'est-ce qui lui garantit les mêmes conditions d'hygiène que quand il débouche sa propre bouteille ? Il faut établir un nouveau lien de confiance avec lui qui ne passe plus par l'emballage et qui passe moins par l'image de marque. Evian, c'est une marque mondiale, ça veut dire quand même une sacrée remise en question.
Alors, ça va au-delà, puisque c'est un risque marque, effectivement, qui ne maîtrise plus son produit.
Et oui, les entreprises ont la responsabilité de la traçabilité de leurs produits jusqu'à leur ouverture. Et là, la limite a changé de place. Elle n'est plus chez le client, mais sur un lieu de distribution avec d'autres intervenants. Non. Ça veut dire qu'il y a des nouvelles responsabilités juridiques à définir avec ce vrac. Ça veut dire aussi qu'il faut éduquer les clients. Vous le savez, l'immense majorité des pépins sanitaires intervient quand les clients conservent leurs aliments.
Ouais, autre question à régler, le prix de cette eau sans bouteille.
Eh oui, pour les clients, l'idée la plus évidente, c'est que l'absence d'emballage doit faire baisser les prix. Eh bien, c'est loin d'être aussi simple, figurez-vous. Il y a toute une logistique.
L'eau, c'est un bien public, c'est gratuit normalement. On paye l'entretien du réseau, mais pas l'eau elle-même.
Eh bien voilà, mais là, on est sur un cas particulier, celui de l'eau minérale naturelle. Il y a donc toute une logistique nouvelle à mettre en place, des équipements. Ça risque de coûter finalement plus cher. Alors, c'est une question presque philosophique. Ouais. Au nom de l'écologie, les clients sont-ils prêts à payer plus pour finalement avoir moins?
Décidément, on s'en pose des questions dans cette affaire d'eau. Evian se heurte aussi, alors pour respecter la loi nouvelle, à des lois anciennes.
Non, mais ça, c'est les merveilles, vous savez, du millefeuille législatif à la française. On a découvert qu'une loi de 1870 stipule que pour qu'une eau minérale naturelle puisse porter ce nom, elle doit être embouteillée à la source. L'eau en vrac, ça crée un second embouteillement et ça fait perdre à l'eau son label. Il va falloir corriger ça pour pouvoir continuer à vendre de l'eau minérale naturelle.
Et puis, il y a la finalité de ce grand changement industriel. Il faut que ce soit écologique.
Bah oui, finalement, c'est la vraie question.
Arrêter de faire vendre du plastique, c'est ça l'idée.
Et voilà, mettre en branle de la technologie, ça ne doit pas se retourner contre le but initial qui est de réduire l'empreinte environnementale. Il faut évaluer le cycle de vie de tous les éléments de cette nouvelle chaîne avant de choisir les bonnes options pour la vente en vrac. Ça évite de se planter et de déplacer le problème, même si sur le fond, ça vaut le coup. Hein. Si le test est un succès, Danone espère diminuer d'un quart le nombre de bouteilles vendues et ses émissions de CO2 d'un tiers. Alors, je vais conclure en paraphrasant Bourvil et son eau ferrugineuse, ça va nous rajeunir. Le dire, c'est bien, le faire, c'est mieux.
L'alcool, non, mais l'eau ferrugineuse, oui.
Voilà, c'est ça la vraie alternative. Mais pourquoi on ne fait pas des bouteilles en verre, tout simplement?
Mais parce que le bilan carbone de la bouteille en verre, il est beaucoup plus important que celui d'une bouteille en plastique.
Voilà. Est-ce qu'on va vers le vin en vrac aussi? Oh là là, les questions.
Les cubis.
Merci. Le cubi, c'est vrai, vous avez raison. Oui, mais c'est de l'aluminium, c'est pas terrible non plus. Merci beaucoup, Emmanuel Ducrot. Un abîme de questions qui s'ouvre devant nous à chaque fois que vous venez au micro. Mesdames, merci aussi d'être restée. Géraldine Vosner. Dans un instant, le club de la presse Europe 1. On va faire un petit tour dans ce square Forceval qui a été évacué de ses craqueux hier.
Europe Matin, 7h, 9h, Dimitri Pavlenko.
8h45 sur Europe 1, le club de la presse Europe 1. On va parler de cette opération d'évacuation, entre guillemets, définitive, du camp de consommateurs de crack dans ce square Forceval, situé dans le 19e arrondissement de Paris, tout près de la porte de la Villette. Déploiement policier d'une grande envergure. Hier, près de 1000 policiers et gendarmes. Certains étaient à cheval, des sirènes, une pelleteuse aussi pour déblayer le camp. Et il y a cette phrase de Gérald Darmanin qui veut croire, il dit ça lorsqu'il se rend hier après-midi, en fin d'après-midi sur place, il veut croire le ministre à un moment important pour l'ordre public rétabli à Paris. Alors que les habitants de la Villette en ont fini avec le crack qui fait des ravages dans ce quartier depuis 40 ans, quand même, disons-le, ceux qui ont un peu vécu, ceux qui connaissent un peu le quartier, le savent. Bonjour Charlotte Dornelas.
Bonjour Dimitri.
De Valeurs Actuelles, pardonnez-moi, j'écorche votre nom, je suis fatigué. Adrien Matou est avec nous, c'est journaliste à Marianne. Bonjour Adrien.
Bonjour.
Alors cette opération policière, présentée comme le ministre, comme la DRDDR d'une certaine manière, est-ce qu'on peut y croire? Est-ce que les habitants du quartier qui ont manifesté un nombre incalculable de fois peuvent y croire, selon vous Charlotte?
Il faut espérer pour eux, franchement. Après, il y a probablement des habitants d'un autre quartier qui peuvent commencer déjà à s'inquiéter, c'est ça le problème.
L'effet de report, vous voulez dire?
Oui, c'est-à-dire qu'on démantèle à un endroit et probablement qu'il va être surveillé sur long terme, parce qu'en effet, les habitants sont non seulement exaspérés, mais surtout extrêmement inquiets des nuisances. Hein. C'est pas simplement... Le mot nuisance, on a l'impression que c'est des gens un peu capricieux qui se disent « bon, ça fait beaucoup de bruit ». Non, c'est juste un cauchemar, ils ont peur de sortir de chez eux et d'y rentrer. Donc c'est l'horreur.
Je précise que c'est le quartier où avait été bâti ce fameux mur de la honte, il y a pile un an, entre la ville de Paris et la ville de Pantin, dans un tunnel, pour les empêcher de naviguer. On est dans ce même secteur.
Oui, complètement. Et donc voilà, quand on dit démantèlement définitif, peut-être que l'endroit, c'est-à-dire ne servira plus de repère pour ceux qui consomment et deal, enfin pour ceux qui deal et consomment du crack, mais simplement la consommation elle-même n'est pas en arrêt définitif par la force des choses. Donc c'est des opérations qui sont à mon avis nécessaires.
Oui. On a une idée du bilan policier de l'opération
d'hier. Moi, je réagis plus sur le nombre. Il y a beaucoup de gens qui sont indignés du fait qu'il n'y ait qu'une garde à vue. Ça s'explique parfaitement bien. Les policiers l'expliquent.
Une garde à vue.
Oui, parce que tout simplement, d'abord, il n'y a pas un consommateur de crack à Paris qui va en garde à vue, puisque là, c'était essentiellement des consommateurs. Déjà, il faut revenir en amont. il n'y avait pas du tout le nombre de
gens... Attendez, 1000 policiers, une seule garde à vue ?
Ouais, alors je vais vous expliquer pourquoi, parce que les policiers qui sont sur le terrain, ils gèrent le maintien de l'ordre pendant le démantèlement. Ce ne sont pas des enquêteurs, précisément, ce ne sont pas des gens qui sont habilités, on va dire, à faire une garde à vue. Et si, je crois qu'il y a quelques 200 contrôles d'identité à ce moment-là, vous mettez 200 personnes, 200 consommateurs de crack en garde à vue, ça se finit. La réponse pénale, dans le meilleur des cas, c'est une injonction thérapeutique, ça ne sert absolument à rien. Et donc, vous avez des consommateurs de crack qui, aujourd'hui, à Paris, la police à Paris n'est pas en mesure d'assumer des gardes à vue pour consommation de crack aujourd'hui. Oui. Et vous pensez bien, parce que déjà, il n'y avait pas le nombre attendu du nombre de gens qu'il y a d'habitude. Donc, oui. Quelqu'un a prévenu, évidemment, les gens qui étaient sur place.
Alors, ce sont 600 consommateurs de crack qui défilent dans ce square.
Qu'est-ce que ce sont les associations ? Est-ce que la fuite vient de la mairie, de la police, du procureur ? On n'en sait rien, peu importe. Oui. Mais il y avait beaucoup moins de monde. Donc, vous imaginez que s'il y avait moins de monde, il n'y avait pas les dealers sur place. Oui. Or, c'est évidemment, les enquêteurs se focalisent sur les réseaux, c'est-à-dire sur les dealers, beaucoup plus que sur les consommateurs.
Adrien Matou, alors quand on regarde un peu la vie du quartier, parce que c'est intéressant, qui vit autour désormais le centre de gravité du quartier, de sa vie, ce sont ces consommateurs de crack. Ça bouleverse complètement la vie du quartier. Il y a ce témoignage ahurissant d'un patron de supermarché dans le coin, dans ce secteur-là, qui racontait que son budget sécurité est supérieur à son loyer. On parle d'un supermarché quand même. C'est quand même absolument catastrophique. Ce sont des habitants qui manifestent en plus régulièrement et ont l'impression d'être des sous-citoyens. Voilà ce qu'ils disent.
Bah, c'est pour ça que cette opération n'est pas si anecdotique que ça. La première réaction qu'on a quand on entend parler, c'est de dire on déplace le problème.
Oui.
C'est vrai qu'on déplace le problème. Mais pour les gens qui étaient sur le lieu du problème, c'est très important. Ils ont le sentiment d'avoir été abandonnés. C'était le cas, sans doute. Et là, il y a quand même une réponse de l'État. Alors, vous avez décrit l'opération qui est quand même une opération d'ampleur. Je pense que ça peut quand même répondre à leurs préoccupations. Voilà, l'État a déployé des moyens pour, certes, déplacer le problème, parce qu'on en parlera peut-être, mais les causes sont tellement profondes que c'est compliqué de supprimer cette situation.
Bah justement, on parlait de crack. Ouais, le crack, je rappelle, c'est ce qu'on appelle la drogue du pauvre.
C'est ça, la cocaïne du pauvre, en fait.
Sous-produit de la cocaïne. Voilà, en fait, vous la mélangez avec du bicarbonate de soude, vous faites sécher. Pardon, je donne
pas faire chez vous. Hein.
Je donne
on va pas donner la recette, ouais.
Non, mais voilà, et ça se vend pas cher. Voilà, c'est pour ça que ça s'appelle la drogue du pauvre comparée à la cocaïne. Hein.
Oui,
quel est le problème aussi aujourd'hui, Adrien Matou?
Les problèmes sont nombreux. Il y a le problème de la misère sociale, parce qu'il y a quand même les gens qui se tournent vers la consommation de cette drogue, sont souvent dans des situations de précarité absolument extrêmes. Il y a le problème de la régulation de l'immigration aussi, parce qu'on sait que tant chez les consommateurs que chez les dealers, il y a beaucoup de filières. Il y a un article du Monde assez fascinant qui décrit pas forcément des cartels organisés comme ça peut exister pour d'autres drogues, mais plutôt des immigrés qui viennent du Sénégal, souvent, qui font vivre des familles entières dans leur pays d'origine.
Avec la vente du crack.
Avec la vente du crack.
À la Villette,
ouais. Et alors, qui eux-mêmes vivent dans la précarité, mais qui font un petit peu d'argent avec le crack. Et il y a peut-être un problème aussi de ce que le sociologue Émile Durkheim appelait l'anomie, parce que la perte de sens, en réalité, parce que si vous avez. Les Parisiens le savent, mais les gens qui habitent ailleurs en France le savent peut-être pas, mais. Les consommateurs de crack, c'est des espèces de zombies, en fait. C'est des gens qui errent dans les rues sans but, qui ont un regard vide, etc. Pour se tourner vers une drogue comme celle-là, il faut quand même être dans une situation de perte de sens totale.
Mais vous savez, les gens le savent, parce que désormais, le crack, on le sait, c'est documenté. Vous en avez dans toutes les grandes villes, vous en avez dans des villes moyennes. C'est à Compiègne, à Mâcon. Aujourd'hui, vous avez des places du crack un petit peu partout dans le territoire. Charlotte Dornelas, Adrien Matou fait allusion à cet article du journal Le Monde qui paraît ce matin et qui nous emmène à Louga. C'est une petite ville du nord du Sénégal, d'où sont originaires beaucoup de trafiquants de crack de ce quartier de la Villette. Et ce qu'ils racontent, ces hommes-là, est assez ahurissant. Je vais vous faire juste une citation. Voilà, l'argent du crack, ça sert à construire de belles maisons là-bas, donc à Louga, à payer des visas. Vendre du crack, c'est une vengeance de vendre du crack en France. C'est terrible,
oui, alors,
cette
c'est
phrase.
Vrai, oui. Il y en a un qui dit dans l'article, en effet, que c'est une vengeance par rapport au protectorat français. Bon, lui parle de colonisation, déjà c'était un protectorat, donc on sent que je ne sais pas très bien où cette idée est née, mais j'ai peur qu'elle soit née en France, beaucoup plus qu'au Sénégal. Mais au-delà de ça, parce que Adrien, vous disiez que le problème était très profond. Alors, le problème global du trafic de drogue, oui, mais précisément sur le trac, c'est peut-être le seul trafic sur lequel on pourrait réellement agir, parce qu'il n'est pas encore internationalisé, il n'y a pas encore précisément toute l'organisation, on va dire,
parce tentaculaire. Parce que la transformation du crack se fait sur place, en fait.
Elle se fait sur place et à Paris, dans des vieilles cuisines, avec des casseroles, avec des casseroles complètement pourries qui sont retrouvées. On les appelle les cuisiniers, c'est ça que les stupes, en l'occurrence, recherchent quand ils essayent de remonter un réseau, mais c'est encore assez bancal et par ailleurs complètement importé précisément du Sénégal. C'est pas encore tentaculaire. C'est la guerre contre la cocaïne, bon courage. C'est-à-dire qu'à l'échelle du monde, c'est vraiment extrêmement compliqué. Donc vous pouvez.
Mais on voit une sorte de spécialisation pratiquement d'un village où on se dit allez vendre du crack à Paris. Le mot a circulé. Ça permet de gagner beaucoup d'argent assez rapidement et l'on voit arriver ces cuisiniers France. Et voilà, mais vous avez raison, c'est un petit marché en bout de chaîne du vaste marché de la cocaïne.
Exactement, et c'est une drogue qui a des effets absolument délétères. Vous en parliez à l'instant, mais c'est absolument atroce de vivre à proximité. C'est des gens complètement déshumanisés dans leur comportement, évidemment pas en soi, mais dans leur comportement extrêmement agressif, extrêmement violent, complètement irrationnel. Donc vous ne pouvez absolument rien faire en face de quelqu'un qui a consommé du crack. Ça génère en plus de la prostitution, parce que certes, le produit est beaucoup moins cher, mais il est quand même c'est 5 euros pour un caillou, c'est extrêmement addictif.
Sachant qu'on ne peut pas travailler, on ne peut pas exercer un emploi normal quand on est addict au crack.
Donc les 5 euros, il faut quand même les sortir. Donc il y a énormément de prostitution qui se fait aux yeux de tout le monde, hein, dans la rue pour obtenir son caillou. Mais dans l'article, moi, ce qui a retenu mon attention, c'est un, vous avez des gens qui vous disent c'est extrêmement mal vu dans le village d'où on vient de consommer. Donc simplement, on va faire de l'argent ailleurs, tout le monde ferme un peu les yeux, à la fin on a une belle maison et tout le monde est content parce qu'on fait vivre un peu le village. Et deuxièmement, on comprend que le trafic se fait non seulement sur le crack, mais en effet, l'argent sert à acheter des visas. Vous apprenez que en fait, le réseau de faux visas remonte jusqu'au consulat de France. Et alors là, moi, je suis Gérald Darmanin, je me dis, ah bah tiens, voilà quelque chose d'extrêmement précis. Je mets des enquêteurs là-dessus. Je retrouve tous les maillons de la chaîne, tous les maillons défectueux de cette chaîne, parce qu'on a du mal à expulser. Et là, dans l'article, on apprend que Gérald Darmanin va se rendre au Sénégal pour essayer de travailler sur ce problème, et c'est très bien. Ce serait bien aussi de limiter l'importation à la fois des dealers et du produit lui-même aussi.
Voilà. Alors on sait aussi qu'à Paris, le nouveau préfet de police, Laurent Nunez, est saisi pour mettre sur pied un plan crack 2, parce qu'il y avait eu un plan crack 1, visiblement, qui n'a pas fonctionné. Comment éradiquer cela ? On sait qu'aussi, par exemple, ce square Forceval qui a été évacué hier, il était question de délocaliser sa population dans le 12e arrondissement, quartier de Bercy-Charenton. Très très forte résistance des élus locaux. Bon, personne n'en voulait.
Bon, alors, si j'avais la solution miracle pour éradiquer le problème, je ne serais pas ici.
Vous seriez ministre de l'Intérieur, sans doute, Adrien.
Mais même alors, pas sûr, c'est ça le
après, drame. Après, on en parle souvent, on l'a déjà dit. Vous en parliez sur le 12e arrondissement, bah là on parle vraiment de déplacer le problème pour le coup. Et je ne suis pas sûr que les habitants du quartier en question soient ravis d'entendre ça. Après il y a la question lancinante des salles de consommation. Il y avait un rapport en 2021 de l'INSERM et de l'Observatoire français de la consommation de drogue qui préconisait l'installation de ces salles.
C'est-à-dire d'encadrer la consommation. C'est ça, le but n'est pas déjà, de faire arrêter les consommateurs.
Moi, je ne suis pas du tout expert pour me prononcer. Il y a un avantage qui est évident, c'est que ça diminue drastiquement la consommation dans la rue. Après, il y a des questions éthiques qui se posent et vous avez toujours cette question du quartier, en fait. Voilà, c'est les gens qui voient arriver une salle de consommation, ils seront furieux et ils auront sans doute des bonnes raisons d'être furieux.
Ouais, sujet qui reviendra nécessairement à un moment ou l'autre dans l'actualité. Merci d'être venu nous en parler, Adrien.
Merci.
Matou de Marianne, Charlotte Dornelas, Valeurs Actuelles. Bonne journée à tous les deux. Il est 8h56 sur Europe 1. Il a toujours un beau t-shirt. C'est Philippe Vandel, Culture Média. Bonjour Philippe.
Bonjour Dimitri. Surtout que j'étais à la bourre et j'ai pas eu le temps de mettre la veste par-dessus. J'aurai la veste pour l'émission. Vous verrez ça sur europe1.fr. On va parler du journalisme de solution. C'est l'ONG, l'organisation non gouvernementale Reporters d'Espoir, qui lance un magazine papier. Au moment où on dit qu'il ne faut plus lancer des magazines papier, que les kiosques sont encombrés, que les gens vont sur Internet, que le papier coûte de plus en plus cher, eux, ils font ça avec du journaliste de solution. Justement, on va leur demander est-ce que c'est la bonne solution. Au sommaire, Caroline Roux, qui présente C'est dans l'air, ce soir, une émission spéciale. C'est dans l'air, un documentaire édifiant que j'ai vu, c'est la guerre Russie-Ukraine. On l'a vu 100 fois, non, pas comme ça. Pas d'avion de chasse, pas de mitrailleuse, c'est la guerre cyber. Comment les Russes et les Ukrainiens s'attaquent avec des hackers. Il y a des milliers de hackers ukrainiens qui détruisent des sites russes et vice-versa. C'est totalement passionnant. Et puis Chantal Latsou,
On reconnaît sa voix en une seconde.
Mais
une nouvelle comédie.
Akena, hein, les Vérandas.
L'imitation. Nouvelle comédie de boulevard, les Vérandas électriques n'existaient pas. Idée géniale, ça s'appelle 1983. Elle joue une grande créatrice de mode. Elle se met à la campagne quelques temps, deux mois, pour se refaire la cerise, retrouver l'inspiration. Et elle reste scotchée en 83. Et la voici qui revient en 2022.
83, année sympa. Bon, ça remonte un peu. Ouais. C'est fou, comme une pub, ça vous colle au basque hein, quand ouais. vous la faites une fois. Merci Philippe Vandel, Culture Média, c'est sur Europe 1, ça démarre dans 5 minutes. Europe Matin revient demain matin dès 7h. Tiens, ce sera notre vendredi thématique, on parlera de l'Égypte, égyptologie, l'égyptomanie française, d'où ça vient. Vous allez voir, c'est absolument passionnant. Et Romain Desarbres pour l'info est avec vous à partir de midi. Excellente journée, bye bye.